Et oui, ce soir à connaître la suite, on s'entretient avec Jean-Nicolas Gagné, rédacteur en chef de Dumont à VTL. Et aussi, on vous fait jouer un entretien que notre ami Danny Quirion a fait ce matin avec Mme Agnès Verdier-Molinier. On se retrouve dans deux minutes. Bonsoir, chers amis. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Ici Steve Martineau et Danny Quirion. Pour l'émission Connaître la suite, on est diffusé, je vous rappelle, évidemment sur la radio satellite XM et également sur Internet au radioshock.fm. Salut Danny, ça va bien?
Ça va bien, Steve, toi?
Oui, tu me sens en pleine forme?
Ben oui.
Pour attaquer les invités de ce soir?
Ben, les attaquer, oui.
Les attaquer. Plutôt attaquer le sujet qu'on va discuter avec eux. Et on est à l'approche aussi de l'événement du Réseau Liberté Québec. Mmh. Ça s'en vient à grands pas le 16 avril. On vous rappelle que nous, l'équipe de Connaître la suite, allons être présents. On va avoir même notre kiosque. Ouais. Vous allez pouvoir discuter avec nous en milieu là, de journée, je dirais, aux alentours du l'heure de repas.
L'heure du lunch.
Et on va être là, puis ça va nous faire un plaisir de mettre peut-être des visages sur des noms qu'on connaît et surtout discuter avec vous. Puis avoir votre appréciation sur l'émission, savoir si vous aimez, qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore, puis ça va être l'occasion aussi pour nous de recueillir tous ces commentaires-là. Parlant de l'événement aussi, inscrivez-vous, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà inscrits. On vous invite, suite au passage de Joanne en plus, la semaine passée, qui nous a remis des DVD du film L'Illusion tranquille. Il m'en reste encore quelques-uns, donc je vais faire tirer tout au long de la semaine là, à ceux qui vont m'envoyer un courriel. Donc c'est simple. Pour être éligible au tirage, il faut me transmettre votre numéro, c'est-à-dire de membre du Réseau Liberté Québec. Et profitez-en pour vous inscrire, si vous n'êtes pas inscrit, là, de devenir membre plutôt. Et comme ça, vous avez des bonnes chances de gagner le DVD de L'Illusion tranquille. On va y aller immédiatement avec notre premier invité ce soir, Danny. On ne le fera pas trop patienter, étant donné qu'il est au téléphone avec nous.
Qui est déjà là, oui.
Et oui, donc je te le laisse présenter, Danny.
Il y a différentes facettes à sa personnalité ou à son vécu. Donc, premièrement, peut-être les gens connaissent ce monsieur parce qu'il a été impliqué au sein de la DQ.
Pas la DQ?
Ben oui, la méchante ADQ.
Méchante ADQ.
Il a été aussi, il est présentement rédacteur en chef à l'émission Dumont AV. Et peut-être qu'il y en a qui le connaissent parce qu'il participe à une certaine émission. Donc, on part son thème. Donc, vous le connaissez peut-être pour ça.
Oups, ça part pas. Petit problème.
Oh non!
Je sais pas comment ça. Pourtant, il est là. Mais il veut pas jouer. C'est un thème d'une autre station, c'est pour ça, Danny.
Ouais, tu penses? Ouais. Ça a été bloqué. Excusez, on voulait te mettre ta toune du top 6, Jean-Nicolas Gagné. Comment ça va?
Messieurs, bonsoir. Comment ça va, vous autres?
Ça va très bien.
Écoute, je vais m'en passer. Je ferai pas de décompte cette fois-là si vous n'avez pas le thème.
Ouais, on voulait te mettre à l'aise, puis là, regarde, je m'excuse, il fonctionne pas. Ouais.
Ah, c'est pas grave, tu sais, on dit toujours que c'est l'intention qui compte, puis je vois que vous avez fait quelque chose pour moi, puis je le prends comme ça.
Ouais, l'intention, hein. On a nous prêts d'avoir un studio, ça a l'air?
Ben oui, ben je suis régulièrement de passage à Québec quand même, parce que je suis dans le beau comté d'André Arthur. Moi, j'ai un chalet à Saint-Raymond. Mm-hmm. J'ai demeuré longtemps à Québec, puis je me suis construit un chalet à Saint-Raymond, puis j'ai bien l'intention d'aller voter là, je pense, cette année, parce que dans mon comté ici, là, je suis pas très emballé par les choix qu'on m'offre.
Tu sais, c'est quoi les choix dans ton comté? T'es dans quel comté?
Je suis gêné. Je pense que je le connais pas, le nom de mon comté. Hey, c'est vraiment gênant. Il faudrait que je regarde le nom. Ben, c'est une bloquiste, premièrement, qui est ici. Donc, je connais pas le nom non plus.
Oh.
Puis, je pense que c'est Joanne, son prénom. Mais là, écoute, je suis vraiment en train d'improviser. Mais je te dirais que c'est un comté qui est assez grand. Parce que moi, je suis à Saint-Lambert, mais ça inclut une bonne partie de Greenfield Park, de Saint-Hubert, puis tout ça vers Saint-Bruno. Mais non, c'est bloquiste ici. Puis mon candidat conservateur, il y a un nom que je suis pas capable de dire. C'est Caïs Oudini ou Adini ou Amidi. Ou... Et que ça n'a rien y enlevé. Là. Je ne veux pas massacrer son nom plus que je viens de le faire dans les 30 dernières secondes, là, mais c'est... C'est ça son nom. Et moi, l'attendre à ma porte. Là, chaque fois que ça sonne, j'espère que c'est lui. Mais je l'ai pas vu encore. Il reste 3 semaines. J'espère qu'il va se présenter. Comme ça, on va pouvoir discuter un peu de ce qu'il veut faire. Mais je l'ai pas vu. Puis, est-ce que j'ai lu dans le journal local? Parce que j'essaie de me préoccuper de mes enjeux locaux.
Mm-hmm.
Ben, imagine-toi donc qu'on n'a même pas 5 candidats à voter.
Ah
si je me fie au journal de Saint-Lambert, que j'ai présentement entre les mains, le NPD et le Parti vert n'ont toujours pas présenté leur candidat pour le comté ici.
Aïe aïe.
Donc, je te dirais que l'organisation politique dans ce coin-là, c'est souvent ça qui arrive. Hein. Dans les banlieues, c'est bien difficile de faire de l'organisation politique parce que ça se situe souvent dans les villes. Parce que c'est plus facile d'avoir des regroupements, de un. Puis de deux, dans les villes, tu peux te rendre à pied. Il y a des bureaux... Tu sais, tu places ton bureau de comté de façon stratégique pour que ça soit un endroit passant. Puis quand tu es dans les banlieues, le problème avec ça, c'est que où c'est que tu mets ton bureau de comté? Il n'y a pas un immeuble de plus que 5 étages. Le coin où il y a des centres d'achat, c'est souvent des petits pâtés de maison.
Ou des boulevards, souvent.
Oui, aussi des boulevards. Tu sais, je veux dire, tu mets ton bureau de comté sur le boulevard Taschereau. C'est l'équivalent de le mettre sur le boulevard Hamel à hauteur de d'Henri IV, là, tu sais.
Une place de fou.
C'est ça, là. C'est à côté de chez vous, là. Fait que, imaginez, là, le mettre entre vous autres puis le jardin mobile, là, le bureau de comté, à part les employés qui vont chez vous, là.
Mm.
Mais il n'y en aura pas bien. Tandis qu'en ville, là, quand ça va dans les centres-villes, c'est plus facile de faire des regroupements.
Mm.
Donc, vient l'autre problème, c'est que les candidatures sont plus difficiles à trouver parce que tu peux moins leur promettre de choses. Imagine, moi, on m'appelait du Parti conservateur, puis on me disait, hey, ça te tente-tu de te présenter pour nous autres? Oui, qu'est-ce que vous m'offrez? Premièrement, est-ce que la caisse est pleine? Ben non, là, la caisse n'est pas pleine parce que ça n'a pas été actif ici depuis 4 ans, fait que là, ça serait le National qui commencerait à vous financer. OK, ça veut dire que si c'est le National qui me finance, ça veut dire que c'est le National qui a un mot à dire sur tout. Déjà là, ça part mal.
Mm-hmm.
Il me dit, OK, mais tu peux faire ton financement. Ouais, mais là, mon financement, c'est correct, mais des hommes d'affaires, des grosses entreprises dans les banlieues, là, c'est pas là qu'il y a ça, là, tu comprends?
Mm.
Pas mal plus facile de trouver des hommes d'affaires puis des compagnies qui sont prêts à acheter une table ou des brunchs à 200$, parce qu'ici, le financement populaire, je peux faire un party hot dog en face du IGA dimanche matin,
mm-hmm.
mais on s'entend que ça va être pour serrer des mains. Là, je ramasserai pas 2 000$ là, puis mes pancartes, puis il faut que quelqu'un se promène en pick-up pendant 2 nuits complètes au déclenchement de la campagne pour poser mes pancartes. T'sais, si j'ai pas de gaz à mettre dans son pick-up, là, on m'a dit les pancartes vont rester dans mon garage.
Mm-hmm.
Fait que c'est un peu fatigant l'organisation en banlieue, puis d'après moi, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont bien de la misère à se trouver des candidats ici. Puis le candidat conservateur, là, écoute.
Il est dans un château fort péquiste, donc, pas péquiste, mais bloquiste. Donc,
si tu as un château fort ici, c'est assez dur à dire. Tu sais, si c'est à l'image de ce qu'ont été les élections dans les derniers temps au Québec, c'est des swings. Tu sais, les banlieues, là, ça swing d'un bord ou de l'autre. Ça dépend de où va le vent. Mais là, c'est bien entendu que le bloc à 40% au Québec, là, c'est assez difficile de penser qu'ils vont en perdre. malgré le fait que les on ne peut pas dire qu'ils ont amené bien des résultats. Là.
Mais malgré que j'ai du CEP à la date, il y a une campagne électorale très positive avec beaucoup d'arguments. Donc, ça risque de changer.
Ah oui, non, c'est ça. Il martèle là, tout ce qu'il veut faire, puis on s'attend à ce qu'il y ait bien des réalisations.
Mais
tu sais, je veux dire...
Mais ce qu'on comprend, là, tu serais pas intéressé par la politique fédérale, là. Parce que, comme on disait d'entrée de jeu, tu étais impliqué au niveau de l'ADQ.
Ouais. Moi, j'ai fait 8 ans, en fait, avec Mario. Je suis rentré en 2002. Il y avait eu, il y avait une vague de partiels. François Corriveau a été le deuxième député élu de l'ADQ après Mario Dumont. Il y en avait déjà eu un pour la petite histoire en 93 qui était libéral, qui était devenu indépendant, qui avait siégé à titre d'ADQiste là, avant même que Mario soit élu. Et François Corriveau, donc, avait été élu sur la Côte-Nord. Puis là, ça avait fait quand même un petit séisme là, médiatique. Tu sais, parce que les médias, quand il y a quelque chose de nouveau, tu sais, les médias, je peux t'en parler, là, j'ai travaillé longtemps avec eux autres, là. Mais quand c'est simple, puis quand les gens peuvent, tu sais, puis à quelque part, à radio, on pense pareil, là, tu sais, puis à TV aussi, puis tu sais, je me fais prendre aussi des fois, on se dit, quand c'est simple, quand ça peut être mis dans un topo, tu sais, 1 minute et demie, là, c'est pas refaire la Constitution, là. Et en 1 minute et demie, s'il y a quelque chose de simple que tu peux transformer, puis après ça, surfer pendant une semaine, ben, tu le fais. Mm-hmm. Puis à l'époque, François Corriveau avait remporté une victoire à l'ADQ, fait que là, c'était simple. Mario Dumont, plus tout seul à l'Assemblée, un autre jeune de 35 ans, une région, qu'est-ce qui se passe, tremblement de terre, blablabla. À peu près 3-4 mois après, 3 autres partiels, une à Laval, puis 2 sur la Rive-Nord, une à Berthier où Marie-Grégoire a remporté, une autre avec Sylvie Espérance dans Joliette, puis une autre dans Laval. Les 3 passent. Et là, méchant séisme. En 2002, je ne sais pas si vous vous rappelez, les gars, mais l'ADQ, on était monté à 43-44% des intentions de vote. Puis, s'il n'y a jamais personne qui a répété ça, quasiment dans le... Tu sais, on dit que François Legault, ça va bien ses affaires, il est haut d'un sondage. Il n'est pas haut d'un sondage, François Legault, il est à 30%.
Effectivement.
Il n'est pas haut d'un sondage.
Non.
Parce que quand tu es haut d'un sondage, là, tu peux commencer à proposer des choses. Là, François Legault, il est supposé déposer la semaine prochaine sa plateforme en éducation. Première proposition, parce que là, on s'entend qu'il a lancé des généralités là, à la limite de l'extrême banalité dans son lancement. De mouvement, ou je sais pas comment appeler ça, de parti to be, là. Puis, la plupart des gens qui ont quitté, comme Joseph Facal, puis Christian Dufault, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils représentaient rien. C'est qu'il y avait 40 pages au début, puis le gars, ce qu'il disait, c'est « Ah oh, non, hey, pas ça. Hey, jamais, t'es-tu malade, on va se faire ramasser. Oh, ça, t'es fou, t'es-tu malade. Hey, coupé, là, oublie ça. Hey, juste le mot. » Fait que là, il s'en vient avec un document aseptisé, donne ça aux médias, les médias disent, oh, ouais, puis là, il y a Charles Sirois, puis là, une coalition souverainiste fédéraliste, puis là, tu sais, ça paraît bien, là, c'est, mais il n'y a rien. Puis ils finissent à 33%, c'est quoi le plus haut qu'ils sont montés, vous rappelez-vous, les gars, 33, 34, même pas?
Ouais, à peu près, oui.
Ouais, dans ce coin-là.
Mais écoute, je comprends que dans une lutte à 4, 34%, ça commence à être intéressant, mais je veux dire, 34% à 3 ans des élections, encore rien pour t'attaquer. C'est nul. C'est nul.
Ouais, ça penche peut-être vers le 20% finalement d'appui, là, rendu ben, à la preuve.
C'est ça. Puis 20% d'appui, mais ben là, t'es dans la recherche de coalition big time. Là.
Exact. Ouais. Hey, t'as dit quelque chose tantôt, Jean-Nicolas. Je veux juste revenir. T'as parlé tantôt du topo en 1 minute et demie. Le fait que t'es maintenant du côté médiatique, pour toi, c'est une frustration de voir justement cet empressement-là dans les médias à traiter les sujets avec des topos assez rapides? Parce que t'es de l'autre côté de la médaille, là, puis
ouais.
T'es avec justement Mario Dumont. Quand un politicien normalement prend la parole, c'est plus qu'une minute et demie. Il essaie de tabasser les gens.
Oui, mais moi, j'ai commencé, j'ai fait de la radio, j'ai travaillé au FM 93, j'ai travaillé à TQS aussi dans la salle des nouvelles, dans le temps qu'il y avait une salle des nouvelles à TQS à Québec.
Ah oui?
Ouais, j'ai commencé avec mon boss, c'était Pierre Martineau, okay. J'ai travaillé avec Dominique Moret, c'est là que j'ai connu Dôme, en fait.
Ça faisait partie de mes questions éventuelles, ouais, c'est ça, donc c'est dans la salle des nouvelles à TQS que vous avez connu.
Exact, avec Jérôme Landry, avec Manon Roy, avec Dôme Moret, avec toute cette gang-là, c'est là que j'ai commencé, puis je Puis Gérard aussi travaillait là.
Ben oui, c'est vrai.
Il avait son émission, lui, il y avait l'émission du midi. Il y avait Alain Laforêt. Moi, j'ai commencé avec Alain Laforêt. Il y avait après le bulletin de nouvelles, midi à midi et demi. Après ça, c'était midi et demi à une heure.
Oui, oui, oui.
Puis c'était Alain. Puis après ça, ça a été Gérard qui a pris la demi-heure. Mais c'est plate à dire, là, mais la politique, ça tire pas.
Oui, mais...
C'est con, mais ça tire pas. Mm. Puis je comprends qu'on regarde pas juste les chiffres puis on capote pas juste là-dessus les BBM, mais si toi, comme média, tu veux parler de politique, faut que ça soit simple. Mais dans ce cas-là, moi, quand je suis parti l'autre côté, je me suis dit, bon, ben, on va faire des choses simples. Tu sais, on va faire des liners. Tu sais, Mario, il s'est fait reprocher à partir, mettons, de quoi, 2005-2006, qu'il n'y avait pas de contenu, qu'il y avait juste des liners.
Mm-hmm.
Mais c'est là que se sont aperçus que c'est ça qui marchait aussi l'autre bord, là, tu sais.
C'est toi qui les écrivais, c'est toi qui écrivais les lignes?
C'est moi qui écrivais les lignes, parce que Mario, c'est un gars qui était, tu sais, c'est un gars qui est tellement vif d'esprit, t'as pas besoin d'y écrire des lignes. En fait, ce que tu fais avec Mario, c'est que tu y parles, puis il les trouve tout seul, là, tu sais.
OK.
Puis on n'était pas, tu sais, ses discours, il a jamais écrit un discours mot à mot, là, tu sais, là. On parle, on prépare un discours. On avait une équipe de, tu sais, Éric Duhem, entre autres. Éric, c'en était un bon, ça, pour faire trouver des lignes, là.
Mm-hmm.
Il était avec nous autres, puis c'est un gars qui était bon pour le stimuler, là, tu sais. Tu le stimules, puis à un moment donné, la lumière arrive, là, tu sais. Puis Mario, particulièrement quand la lumière rouge de la caméra est allumée, mais il est encore meilleur, là, tu sais, que quand on était dans le bureau avant à se pratiquer, là. C'est tout ça pour dire que, d'un côté, quand j'étais journaliste, puis on s'apercevait bien, tu sais, qu'un politicien, un candidat, un municipal ou whatever, qui vient nous parler pendant 3, 4, 5 minutes dans une entrevue sur un enjeu qui malheureusement concerne pas la plupart du monde, ben ça tombait à plat. Fait que nous, ce qu'on s'est dit à la DQ, en plus qu'on était en survie totale. Tu sais, je veux dire, nous autres, mettons, quand on s'est fait planter en 2003, là, mm-hmm. de 2003 à 2007, là, c'est la survie.
Ben oui, c'est sûr.
On est à 15 %. Faut continuer à avoir une vie de parti, faut continuer à accumuler de l'argent, faut continuer à être à la recherche de candidats, puis il faut exister médiatiquement. Puis tout ça, là, la recherche de candidats, l'argent, puis la vie de parti, la seule chose qui fait en sorte que ça peut marcher, c'est une présence médiatique. Il n'y en a pas d'autre.
Mmh.
Fait que si tu veux avoir ta cote dans le topo de Robert Plouffe à 18h, il faut que ce soit un liner. T'as pas le choix.
Je comprends, mais tu sais, c'est un peu la poule et l'œuf aussi, parce que si tu veux attirer les gens, si t'as pas de contenu, t'as juste des liners, surtout quand il y a des gens qui veulent en apprendre davantage sur les plateformes politiques, sur les orientations, puis tu sais, on nous savate toujours les mêmes liners, puis les mêmes discours, que ce soit le matin, le midi, le soir, on utilise assez souvent les mêmes cotes. C'est pas justement une forme de fast-food qui peut faire en sorte que la clientèle s'écarte. Puis tu sais, au Québec, on parle beaucoup de morosité, on dit que les gens... Le cynisme, les gens vont plus, tu sais, ils sentent même plus le devoir d'aller voter. Je veux dire, c'est parce qu'il y a de l'éducation à faire, puis je veux pas dire que c'est le mandat de la société d'État, mais à quelque part, c'est normal qu'une émission à nature d'affaires publiques ou politiques atteint pas les cotes d'écoute d'un tout le monde en parle ou d'un Star Academy. Puis là, si tu es en train de me dire que on regarde toujours l'aspect pécunier derrière les cotes d'écoute, parce que c'est sûr que cotes d'écoute se traduit par revenus publicitaires, puis argent, puis moyens financiers, mais c'est quoi la place? Puis tu sais, je veux pas que tu décris le modèle de V par rapport à ça, mais est-ce qu'on est conscient quand même que là-dedans, il y a un peu d'éducation? Puis quand on regarde les topos à Dumont, à V, ben des fois, il y a des sujets qui sont explosés davantage parce qu'on doit en parler plus que 30 secondes.
Exact. Mais écoute, c'est sûr que moi, mettons, je suis à mon bureau, puis là, j'ai une femme, une mère de famille, son enfant doit faire n'importe quelle histoire human que je me dis, hey, ça, c'est bon, tu sais, là, c'est j'ai envie d'entendre parler de ça. Puis là, j'ai le cabinet du ministre Paradis qui m'appelle et qui me dit « Bonjour, le ministre est à Montréal, puis on aimerait ça venir vous parler du budget. » Bon. Là, j'étais un peu fourré. T'sais, d'un côté, j'ai ma fonction de rédacteur en chef qui me rappelle que je suis dans une émission d'affaires publiques, puis qu'un ministre responsable du Québec qui s'annonce pour venir vendre le budget, c'est difficile de le flusher, tu sais. Mm-hmm. Puis j'ai l'autre côté de l'histoire Human, tu sais, qui risque de faire parler, ouais. Tu sais, qui reste de plus durer une semaine. Ben, c'est plate, mais je vais flusher le Human. Tu sais, j'ai pas le choix parce que je suis une émission d'affaires publiques. Le ministre va venir, ça va affecter mes codes d'écoute, ça va peut-être affecter l'ambiance générale de ce show-là en particulier. Ouais. Mais il reste que c'est brandé. Tu sais, je veux dire, c'est notre branding. On est quand même un gars d'affaires publiques. Un show d'affaires publiques, Mario est un gars d'affaires publiques.
Mais je pose la question parce que tu le sais, tu as vu, il y en avait beaucoup d'émissions d'affaires publiques avant la Société d'État. Il y en avait même sur le réseau TVA. Ces émissions-là, on tente, je dirais pas par tous les moyens, mais on voit qu'ils disparaissent du paysage médiatique. On fait encore un peu d'affaires publiques, mais je peux pas dire que La Roque et La Pierre, je trouve que c'est d'affaires publiques. C'est plutôt une émission à potin politique, là. Mais
c'est sûr que Jean Lapierre, lui, c'est ça qui
il vit de ça.
Non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, comment tu catalogues justement votre orientation? C'est-tu de garder la ligne pure et dure affaires publiques et de pousser le modèle plus loin?
Nous, on est une émission d'affaires publiques. Comme je t'ai dit, face à des choix qui, dans l'évidence, vont affecter les codes d'écoute vers le bas, mais qui vont toucher le branding affaires publiques, on va choisir le branding affaires publiques.
OK.
Parce que c'est ce qu'on veut faire. Mais je veux dire, il est évident que on peut pas faire uniquement de la politique.
Non. Mais
ça ne survivra pas.
Mais sans aller vers justement Jean-Luc Mongrain qui, dans ses dernières années, allait dans le très human, là, tu sais. On amenait le gros cas très human.
À Saint-Romuald, il y a un pipeline de crever, puis là, on questionne tout le voisinage.
Ben, c'est ça. Je veux dire, parce qu'au départ, tu sais, on avait. Et là, je suis pas nostalgique en disant ça, mais moi, je suis un grand consommateur d'émissions d'affaires publiques. Aujourd'hui, quand je me tourne vers la télé québécoise, j'ai peu d'alternatives. Je suis content de voir que dans le paysage, puis on ramène ça à des heures d'écoute qui pour moi me conviennent en plus, en fin de soirée. C'est là que moi je trouve qu'on doit justement donner aux jeunes parents. T'sais, aujourd'hui, on couche les enfants très tôt, plus ou moins, tout dépendant s'ils sont adolescents un peu plus tard. Fait que, tu sais, à 10h30, 11h, je trouve que les émissions d'affaires publiques ont leur place. Puis il était une grande époque là, puis jusqu'à tout récemment où on mettait les grands shows, des talk shows ou des quiz ou des shows du genre. Puis je me dis, c'est quoi l'optique à long terme? Est-ce qu'on va avoir un retour d'émissions comme ça ou si on est plutôt dans une période plus passagère puis on teste encore des modèles en fin de compte?
Ben écoute, c'est difficile à dire, mais moi je peux te dire que par expérience, autant quand j'étais à la télévision que quand j'étais attaché de presse, ça a toujours été une constante. La politique, ça tire pas d'un code d'écoute. Bon, mettons que tu parles de ce constat un peu grossier puis malheureux, là, c'est une vérité. Donc, tu sais, mettons, Mario, il se faisait, tu sais, on rencontrait des amis en télé, on dit, invite-nous dans ton show. Il dit, oui, je veux bien, mais là, je suis en BBM, je peux pas, tu sais.
Ben, c'est ça.
C'est con, là, mais tu sais, c'est, oh, OK, on comprend, hein, tu sais, puis là, ben, la politique, ça c'est cycle aussi, là, tu sais, c'est sûr que là, en campagne électorale, c'est plus hot, tu sais, c'est plus intéressant de voir qui peut venir en entrevue, tu sais, tu y penses plus. Mais, tu sais, au-delà de ça, tu sais, on s'en va en série, et en plus, ici, à Montréal, là, hey, ça va passer 8e pas, à peu près. Ouais. Hey, déjà, tu sais, moi, ça fait un an et demi, mettons, que je suis à Montréal, là, puis je peux te dire que la différence, là, est frappante, là, comment que les gens à Montréal sont mal instruits politiquement comparativement aux gens de Québec.
Ah oui.
Pas parce que... Je sais pas comment...
Mais c'est un bon constat. Tu fais là, c'est-tu ce qui expliquerait en partie le mystère Québec? C'est-tu le fait qu'on est un petit peu plus politisé ici, qu'on prendrait des orientations un peu moins, on va dire, populaires par rapport à...
C'est évident, mais il y a pas d'autres questions, c'est sûr, c'est ça. C'est parce que les gens... tu sais, moi, mettons, là... Je suis à Québec, puis je suis dans un restaurant quelconque. Puis, il y a une rumeur de remaniement ministériel, mettons. Mais les gens vont le savoir qu'il y a une rumeur, même s'il n'y en a pas, ou n'importe quoi. Les gens vont savoir, ouais, il paraît que Charest va remanier son... Tu sais, mettons, la moitié des gens là, qui sont actifs, là, qui travaillent, puis qui ont des contacts avec des relayeurs, là, mais ils vont savoir qu'il y a une rumeur de remaniement. Mais Montréal, oublie ça, là.
Mais c'est un peu aussi le gros problème dans l'histoire, parce que c'est le volume est là à Montréal. Quand on parle de 3 millions de personnes, si la trame de fond, c'est le Canadien de Montréal, c'est pas demain non plus qu'on va... Ben, d'un, pour vous autres qui menez des émissions d'affaires publiques, c'est pas demain matin que vous allez ramasser des codes d'écoute. Comme tu dis, les séries s'en viennent, ça tombe à plat. Puis après ça, quand vient le temps de prendre des choix politiques ou des orientations, ben là, ces gens-là veulent pas consommer ces émissions-là ou ces discours-là, parce que ils ont passé à autre chose, là. Sont dans l'entertainment pur.
C'est sûr. Écoute, nous autres, de toute façon, là, depuis que la saison d'hockey est commencée, on le sait quand on va avoir des bons chiffres, puis on le sait quand on va avoir des mauvais chiffres, puis c'est bien souvent directement relié aux Canadiens qui sont sur RDS,
ouais,
qui tirent un million. Là.
Ouais.
Parce que quand ils sont pas là, RDS tire en bas de 100 000. Quand les Canadiens, c'est un million. Fait que, je dis, c'est du monde, là.
Puis le feedback que vous avez par rapport à l'émission, est-ce que c'est surtout en région qui vient ou vous avez quand même beaucoup de feedback de la grande région métropolitaine?
C'est dur à dire. Je te dirais qu'il y a beaucoup de gens à Montréal quand même qui aiment beaucoup Mario.
Ah oui?
Pour plusieurs raisons. Ben, premièrement, faut quand même se mettre dans le contexte qu'il y a deux Montréal, là, ou même trois. Il y a le Montréal anglophone, celui auquel je peux même pas référer parce que il y a le Montréal anglophone à faire, mais je veux dire, il y a le vrai Montréal anglophone, là. Tu sais, moi, mettons, j'ai fait une partielle avec Mario, mettons, en 2006, le comté de Nelligan puis Laurier-Dorion, OK? Ça, c'est des comtés de l'ouest de l'île.
Ouais, t'es au bout, là. T'es au bout de l'île.
Ben, je te jure, là, je rentrais, je faisais le porte-à-porte avec Mario Dumont, qui était chef de l'opposition, qui était pas chef de l'opposition, mais qui était un chef politique dans le paysage depuis plus presque 20 ans, là. Ben, il y a personne qui le connaissait, là, tu comprends? Puis, quand j'essayais de le présenter aux gens, ben, il y avait aucune langue avec laquelle je pouvais communiquer avec eux. Anglais, français, tout était périlleux, tout était difficile. Fait que, Il y a ce Montréal-là qu'on connaît pas puis qui nous connaissent très peu. Il y a le Montréal du plateau, qui, par ailleurs, le plateau s'élargit toujours. Là. C'est Rosemont, Villeray, ça va être Onsic bientôt, puis ça va être Centre-Sud, puis ça va être ça, mais Montréal, l'espèce de forteresse là, du centre de Montréal. Puis il y a les banlieues. Mais les banlieues, c'est la majorité du monde, on s'entend. Là.
Ouais, ouais.
Moi, je rencontre les gens avec qui je travaille, les gens avec qui j'ai des relations personnelles, c'est pour la plupart des gens qui restent à Boucherville, qui restent à Laval, qui restent à Saint-Bruno, etc.
Qui sont pas originaires de là, souvent. Souvent, ils viennent des régions, ces
gens-là. Oui, et, ben, oui, où ils sont nés à l'époque où il y avait des familles qui commençaient à Montréal, puis ils ont migré vers la rive sud, la rive nord. Mm. Mais tout ça pour dire que les gens qui nous donnent des feedbacks positifs, ben, je te donne une chance, je te pose une question, tu as une chance de me répondre. De quel des trois Montréal tu penses qu'ils nous viennent?
Mm. Ben, c'est sûr.
C'est trop risqué, je vais laisser Steve répondre.
Ah oui. On va y aller avec C, les banlieues.
Bonne réponse, bravo, les gars. Vous êtes forts, vous en pensez pas.
Ah non.
Mais, c'est parce que c'est du monde qui ont voté pour nous autres en 2007, tu comprends?
Mm-hmm.
Parce que puis c'est du monde qui entend Mario le matin, qui fait une chronique avec Paul Arcand à 8h, de 8h20 à 8h35, ils sont dans le trafic.
Exact.
Fait qu'ils entendent Mario. Fait que c'est sûr qu'on a des feedbacks autour de la région de Montréal, mais faut pas se le cacher. C'est à Québec, Mario va se faire arrêter dans un centre d'achat, il va aller à Place Laurier, puis il va se faire dire « Ouais, ce que tu as dit à ton émission l'autre jour, je suis pas vraiment d'accord. » Tandis qu'à Montréal... Premièrement, Mario, dans un centre d'achat, il marche vite, faut le pogner. Puis deuxièmement, ben c'est sûr qu'à Montréal, c'est un peu plus impersonnel. Puis
je te pose une petite question comme ça, mais ça, c'est une observation, puis je suis peut-être... j'écoute pas l'émission de façon assidue à tous les soirs, mais je l'écoute régulièrement. J'ai l'impression, tu sais, que les topos, là, les débats à la fin de l'émission, il y en a beaucoup qui sont tournés à Québec. Ça se peut-tu?
Les débats au début de l'émission?
Non, à la fin, à la toute fin, là. Les gens, là, comment est-ce qu'on appelle ça, là, la minute où ce que...
Hey, OK.
Ouais, ça, c'était à l'automne.
Ça fait longtemps que tu as regardé l'émission, là, parce que, mettons, là, la section « Qui a raison? »
Ouais, « Qui a raison?
» Oh, oui, écoute,
ça, vous avez arrêté ça à l'automne.
Mettons, depuis le mois de novembre.
Là. Ah, ouais, mais pourtant, c'est parce que je me rends pas toujours à la fin de l'émission, là, parce que je l'écoute régulièrement, mais...
Non, ça, c'est plus... Oui, mais en effet, c'est drôle que tu parles de ça, parce que les gens, en majorité, qui nous offraient de participer à cette capsule-là, c'était des gens de Québec. Puis ça nous a causé un problème parce que maintenant, on ne peut plus y aller. Ça n'avait plus de bon sens. On tournait tout à Québec.
Oui, c'est
parce
ça.
Parce que les gens ont plus d'opinions à Québec. Ce qui me ramène à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à Montréal, les gens sont moins politisés parce que tu peux pas... Tu sais, ils n'ont pas d'opinion, donc ils sont pas politisés, puis ils sont pas politisés, donc ils n'ont pas d'opinion. Alors qu'à Québec, c'est le contraire. Tu sais, les gens savent que la radio est d'opinion le matin, il faut qu'ils l'écoutent. Ils savent que dans les journaux, il y a des points de vue beaucoup plus intéressants, puis beaucoup plus avant-gardistes aussi, souvent, qui sont traités. Puis ils ont le Parlement dans leur ville aussi. Ça, ça fait peut-être la différence, tu sais.
Mais je pense que la radio d'opinion, elle a vraiment son importance là-dedans. Là. Depuis Arthur, là. Arthur, il a commencé quoi dans les années 70?
Oui, mais tu sais, je veux dire, il y avait Pascal puis Gilles quand même à Montréal. On peut pas dire que Montréal avait pas une radio d'opinion puis qu'elle marchait pas. Elle marchait aussi. Mais c'était différent. Je sais pas quoi te dire. C'était moins politisé. Là, c'était vraiment plus là, sur des... Tu sais, Gilles Proulx, c'était des vieux combats, là, tu sais, là. Je dis pas qu'Arthur avait pas des vieux combats, au contraire, là, mais je te dirais que Gilles, lui, il est vraiment, puis encore aujourd'hui, là, tu sais, c'est la langue, c'est des doses, tu sais quel piton peser, Gilles, on le sait, là, tu sais. Et on les connaît tous, tu sais, son dash, là, et on le connaît, là, tu sais. Il a pas changé, là. Mais il y en avait de la radio d'opinion à Montréal, mais était moins politique, tu sais, peut-être aussi dû au fait que, il n'y avait pas beaucoup d'invités de politique. Tu sais, mettons, vous autres à Québec, là, Choix ou FM 93, n'importe qui veut avoir Michel Courchain en studio. Mais ils vont finir par l'avoir. Hein. Mais tu sais, ici, là, tu veux avoir un ministre, c'est quand qu'il passe à Montréal, c'est quand qu'il est disponible. Tu sais, mettons une journée par semaine en comté, puis ils sont pas tous à Montréal, puis c'est pas tous des ministres à Montréal. Tu sais, tu peux avoir Lawrence Bergman. Si tu veux à Montréal, là... Mais Hans Bergman, il parle pas très bien français, puis il est toujours disponible, il est pas ministre.
Il fait pas souvent l'actualité.
Non plus. Il y a pas un gros portefeuille.
Non,
là,
c'est ça.
Au caucus, là, d'après moi, c'est lui qui vide les assiettes quand c'est fini, puis il s'en met dans les poches quand tout le monde est parti. Là.
Ouais. Mais je sais pas, peut-être que si le Bloc a fait à l'époque un espèce de travail pour savoir c'était quoi le mystère Québec...
le comité d'Hélène Allary.
Oui, exact. Il faudrait peut-être prouver qu'est-ce qui se passe à Montréal. Comment il faut faire pour politiser ce monde-là? Là? C'est une masse importante. Là. C'est quoi? C'est le tiers du Québec qui se fout de la politique?
Je te dirais que, contrairement à Québec, eux, c'est plus épisodique leur intérêt face à la politique. À Québec, il est soutenu pour plusieurs facteurs qu'on a énumérés tout à l'heure. Mais à Montréal, c'est épisodique. Tu sais, il faut que ça arrive ça, là, le pont Champlain, là. Là, c'est big. Là, ça s'intéresse à la politique, là. Puis là, les chefs des files, ils sont pas fous, là. Là, c'était Ignacy, il y a deux jours. Là, matin, c'était Pauline Marois. Là, tout le monde promet le pont.
Elle s'est fait poser à côté du pont, je pense.
Ben oui, à matin, ils ont fait un photo-op à côté du pont. Puis, vogue la galère.
Toutes tes perceptions.
C'est ça. Ah oui, parce que ça, tu sais, je veux dire, c'est d'une grande importance, faire une genre de sortie comme ça avec son caucus, puis faire un photo-op. Ça, c'est quasiment de la campagne électorale. Puis ça s'inscrivait, évidemment, pour une attaque à Harper, mais c'est quand même un gros statement. Sauf qu'on s'entend que, disant, il n'y a pas d'études de fait, il n'y a rien. Il faut qu'il fasse une étude environnementale, une étude de faisabilité, une étude de coût, une étude d'usager. Écoute, là, on est loin de la réalisation de ce pont-là.
C'est comme je disais l'autre fois à l'émission. Moi, c'est drôle, la question que j'aimerais avoir une réponse, c'est comment ça que ce pont-là est déjà fini? Ça a été construit fin 50, début 60, puis là, on me dit, c'est le sel qui n'avait pas été prévu. Maintenant, là, les ponts sont salés, puis pas à l'époque. Là. Il y a d'autres choses que ça.
Mais ce qu'on m'a dit, dans ce que j'ai pu lire, là, c'est qu'il y avait autour de 10 ou moins de 10 scénarios, et puis on a pris le moins cher. Mais là, tough luck, là, mais je disais, il faut le changer. Comme je connais rien là-dedans, là. Puis c'est sûr qu'un pont qui tombe, ça fait pas une bien bonne publicité le Québec, si jamais ça arrive.
Ça serait l'enfer de voir comment que le Parti conservateur se ferait ramasser. Mais si le pont, il y a eu un rapport aussi dévastateur, là, il y a sûrement eu des rapports dévastateurs dans le temps que c'était les libéraux aussi au pouvoir. Là.
Oui, et puis il faut toujours faire attention à qui commande les rapports.
Oui, c'est ça.
À un moment donné, là, c'est comme les sondages, les rapports. Là, tu leur fais dire ce que tu veux. Là. Si tu as de l'argent, tu te fais faire un rapport, puis ils disent ce que tu veux qu'ils concluent. Faut pas, ça prend pas tête à Papineau, là. Puis surtout quand il sort à des moments cruciaux, ben là, tu te poses encore plus de questions si t'es malin.
Comme gars qui a porté les deux chapeaux, journaliste et aussi travaillé en coulisses en politique, tu penses quoi de la campagne électorale, en gros, là?
Oui. Mon tupé rendu-tu long? Je sais pas quoi dire. Ça dépend. Écoute, il y a plusieurs campagnes électorales. Il y a, dans ma tête, il y a celle que les médias font, parce que les médias sont... c'est là...
Pour ta mission.
Ouais. Ça,
c'est
là...
C'est terrible.
Mais moi, je peux te dire, là, pour l'avoir fait, mettons, j'ai fait 3 campagnes électorales, là. C'est là que les masques tombent, là, tu sais, là. Puis c'est toujours subtil, tu sais, parce que moi, je mène un combat, puis je pense que les médias devraient s'afficher. Je pense qu'on serait mieux servi par des médias qui disent où ils logent. Puis je pense que, les médias d'opinion, c'est l'avenir. Je pense que dans d'autres pays, tous les grands journaux, tous les grands médias, les médias des quotidiens, on se sont positionnés. Puis je pense qu'en campagne électorale, quand t'es un petit peu attentif, là, tu vas me dire qu'il s'en prend pas ben ben attention, là, mais tu vois où ça penche. Tu sais. Tu vois les journalistes où ils penchent. Mais bon, écoute, c'est les gens qui nous écoutent, là, il y a encore des gens qui pensent que des journalistes, c'est neutre. Mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise à ces gens-là?
Son naïf.
Pas neutre, un journaliste, c'est quelqu'un. Il n'y a personne de neutre, ben de un. Puis de deux, c'est des gens qui sont tous les jours à voir ce qui se passe en politique. Mais comment tu peux passer, disons, une année entière à travailler en politique puis pas te faire d'opinion?
Ah, c'est ça.
Faut avoir de l'abnégation. Il y en a qui sont justes. Ça, c'est différent. T'sais, moi, j'ai travaillé avec des journalistes justes. J'ai travaillé peut-être avec 45 journalistes à la Tribune de la Presse, en tout et partout, qui sont passés, qui sont venus, qui sont repartis. Je peux t'en nommer un paquet qui sont justes, là. Mais je peux t'en nommer un maudit paquet aussi qui, t'sais, quand vient le temps de faire des gestes qui font en sorte qu'à un moment crucial, ça penche du bon bord, bien, il y en avait un paquet, là, tu sais.
Mais sinon, moi,
ça,
je vois...
Vas-y.
Ouais, moi, je vois, il y a une différence entre avoir un biais et être en mission. Puis moi, je sens qu'il y a certains médias, là, depuis la montée de la DQ en 2007, c'est là qu'on dirait que ça a réveillé les médias, et là qu'on dirait qu'ils sont plus en mission que biaisés.
Moi, en 2008, il y a un journaliste qui m'a dit qu'il avait une commande de nous planter avant la campagne. Il me l'a dit. Fait que c'est sûr que là, j'ai maugré. J'étais pour le moins un peu maussade de savoir qu'un média, plus sans le nommer, mais qui était d'une telle importance, qui partait avec un préjugé défavorable envers nous, ben, c'est tannant, là, tu sais, là, mais en même temps, ça me surprend jamais, parce que, tu sais, je veux dire, quand tu travailles avec eux, c'est pas long, là, tu sais, que lui, tu dis, ah, lui, il est péquiste, ah, lui, il est péquiste. Lui, il est péquiste. Lui, il est péquiste. Bon. Ah, tu sais, lui, il est libéral. Non, c'est pas vrai, il n'avait pas. Mais tu sais, tu comprends, c'est assez... Tu fais vite le calcul que tu vas avoir à te battre contre eux aussi. Là,
Mais Jean-Nicolas, on dit souvent, justement, que les médias québécois seraient principalement à gauche. Je veux pas généraliser, mais principalement, ils seraient à gauche. Est-ce que, justement, le média dans lequel tu participes et l'émission surtout dans laquelle tu es impliqué, est-ce que vous cherchez à vouloir faire une contrebalance à cette gauche-là omniprésente?
Moi, je peux te dire que quand je suis rentré en politique en 2002, là, la gauche puis la droite, là, j'aurais eu de la misère moi-même à te l'expliquer c'est quoi la différence. Là. Parce que j'avais pas appris ça à l'école, parce que ça n'existait pas au Québec. Là.
Non, c'était toujours le discours souverainiste contre les fédéralistes.
Voilà. Moi, ce que je pense, là, c'est que les médias n'étaient pas de gauche ou de droite. Ils sont pas majoritairement de gauche. Peut-être aujourd'hui, ça a évolué, mais c'est parti du fait que les médias étaient souverainistes.
Mais comme dit Danny, avec la montée de la DQ en 2007, c'est là qu'on... Parce que Mario avait employé les mots de droite puis centre-droite. C'est là qu'on a senti un peu, justement, l'échiquier se construire par rapport à un axe gauche-droite. Puis aujourd'hui, on voit que ça continue dans ce sens-là. Là, puis
Mais c'est pour ça que je te dis que les médias sont un peu mêlés, parce que les médias étaient souverainistes. Les chroniqueurs, pour la plupart, là, à part, à Power Corp, ils étaient souverainistes. Puis, Là, quand il y a l'axe, parce que, oui, je pense qu'en 2007, Mario, quand il est arrivé avec des mots de dire que tu positionnais à droite, là, parce que, avant 2007, là, la seule association que les gens pouvaient faire à la droite, c'était Le Pen, c'était George Bush.
Ouais.
C'était les seules choses que tu pouvais associer à la droite quand tu étais un citoyen qui s'informait un minimum. Puis si tu t'informais pas pendant toute la droite, pour toi, c'était comme les armes à feu, puis tuer des gens.
Ouais. Ouais, c'est ça.
La droite, c'était les méchants, dans le fond.
La droite religieuse, là, surtout qu'on faisait
référence. Oui, oui. Aussi, oui, aussi, là, c'est ça, ils mettent un scotch tape, les femmes peuvent pas avorter rien. Fait que c'était vraiment, tu sais, c'était... Tu sais, Mario, là, il s'est fait attaquer, puis il en a mangé du pain noir, mais peux-tu te dire qu'il a déblayé, là?
Ben oui.
Pas à peu près, là. Tu sais, des gens, là, qui se disent à droite en ce moment, puis là... Je veux pas défendre Mario parce que je travaille avec lui depuis si longtemps, mais tu sais, il y a des gens qui s'en prennent disant, Mario, il est pas assez à droite ou c'est un gauche dans le placard, tu sais, les gens ont pas idée à quel point Mario il a déblayé, là.
Ouais.
Écoute, on sera encore dans un débat souverainiste fédéraliste si ça avait pas été de la DQ puis de la percée qu'ils ont faite puis de l'éducation aussi sur les possibilités autres que fonctionnariat, gauche, etc.
Oui, ouais, c'est ça. La droite économique, là, qui maintenant, je pense, est beaucoup plus...
Est beaucoup plus acceptée.
Ben, c'est ça.
Plus acceptable, puis beaucoup mieux comprise, plus reconnue.
C'est ça, mieux comprise aussi.
Mieux comprise aussi, t'as parfaitement raison.
Malgré que là, on joue sur le terrain de jeu de la droite économique qui laisse la veuve et l'orphelin mourir et qui prend pas soin
mais
de son prochain.
Moins, là.
Ouais, ouais, non, c'est
beaucoup
sûr.
Beaucoup moins. Écoute, moi, je te dis, là, quand, mettons, on présentait la plateforme en santé, en 2003, notre vocabulaire, c'était un système de santé mixte avec un apport du privé. Ça a toujours été le vocabulaire utilisé. Puis, si n'importe quelle autre partie, mettons le PQ avait sorti n'importe quelle plateforme sur un sujet avec un vocabulaire, là, les journalistes auraient utilisé le vocabulaire que le PQ avait choisi. Tu comprends, mettons que le PQ sort sur une politique sur les voitures électriques, puis ils appellent ça la politique sur les voitures électriques. Ben les médias vont en parler comme la politique sur les voitures électriques du PQ. Bon, nous, on sortait une politique santé avec un système de santé mixte avec un apport du privé. Comment tu penses que les journalistes en totalité ont appelé ça?
Un système privé.
Médecine à deux vitesses.
Ah,
une pour les riches, une pour les pauvres.
Ouais.
Non, là, moi, j'ai rappelé tout un par un. J'ai dit, je ne veux pas se mêler, les gars, mais c'est ce qu'on a dit que nous, c'était un système mixte. Oui, mais c'est un système à deux vitesses. Ben, non, c'est pas ça. Ben, OK, mais pourtant, c'est facile à comprendre, c'est pas mal ça, c'est une pour les riches, une pour les pauvres. T'sais, non, c'est pas ça. Puis pourquoi vous n'utilisez pas nos mots alors que quand c'est les autres parties, vous vous posez même pas la question de les utiliser? Pourquoi? Parce qu'on était à droite, parce que c'est plus facile d'associer le démon à la droite.
Ah oui.
Mais ça a beaucoup évolué. Puis ça, Mario, il a quand même, écoute, il a eu le vent d'en face, s'il vous plaît, là, tu sais, pour être capable d'un jour restaurer. Là, tu l'entends plus. Médecine à deux vitesses, là tu l'entends plus. Puis, là, c'est pas mal passé.
Puis toi, aujourd'hui, écoute, tu rappelles sûrement ces gens-là, parce que le fait que tu es rédacteur en chef, puis que tu travailles avec Mario, avez-vous des difficultés encore aujourd'hui, ou tout ça, c'est de l'histoire ancienne? Parce que, écoute, on voit quand même à l'émission des gens qui sont de gauche, puis qui partent.
Oui.
Avez-vous la difficulté? Sentez-vous encore cette réticence-là, ou c'est tombé?
Ça dépend, tu sais, je veux dire. Puis je veux pas généraliser, mais c'est sûr que généraliser, c'est souvent plus simple, mais disons qu'il y a une certaine couche de la société qui ont pas mené à terme leur combat,
okay,
pour lesquels c'est plus difficile pour eux d'admettre qu'il y a une place pour la droite puis que c'est pas caca, tu comprends, là?
Ouais, ouais.
Puis qu'il y a autre chose que le combat de la souveraineté puis tout ça. Donc c'est sûr qu'il y a une vieille garde qui domine le paysage intellectuel puis du Québec encore, qui a plus de difficultés à laisser la place à la droite. Mais ça, écoute, en même temps, là, faut arrêter de se plaindre. Là, je sais pas quel âge vous avez, vous autres, les boys, mais tu sais, moi, j'ai 33 ans. Là. C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir la prendre, notre place. Là, tu comprends?
Définitivement. Puis, tu sais, nous autres, notre émission s'inscrit un peu là-dedans aussi. On essaye d'occuper l'espace média autant comme on le peut. Puis, on se rend compte que même nous autres, des fois, on n'a pas toujours l'adhésion, malgré que on peut pas se plaindre. Ça va super bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent quand on leur demande de venir. Mais je me posais la question parce que j'imagine que toi, vous travaillez à tous les jours à construire cette émission-là. Vous devez renouveler aussi puis avoir des points de vue différents. Je me disais, c'est-tu très difficile, facile ou c'est...
Mais ce qui est le plus difficile, là, c'est con, mais c'est parce que c'est d'en trouver à Montréal.
Ouais, c'est d'en trouver à Montréal.
Parce que nous, on n'a malheureusement pas l'ancienne infrastructure de TQS. On est à petit moyen. Là. Vous voyez qu'on est très régulièrement dans le studio à Montréal. Les invités sont en studio. On peut difficilement aller faire des choses à l'extérieur de Montréal. Donc, on a besoin de gens qui sont présents à Montréal en studio. Puis des gens qui sont... moi et Mario, on a l'expression là, hors-centre, là, tu sais, là, une espèce des gens qui prennent les choses à l'envers, là, tu sais, puis qui pourraient venir apporter un point de vue différent du train ambiant, là, tu sais, de la locomotive,
ouais, ouais.
De la pensée. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Je sais pas, là. C'est parce que les gens ont moins de temps ici, ils arrivent tard le soir, ils partent tôt le matin, puis ils lisent, je sais pas, mais les gens ont plus de difficultés à s'afficher comme outsiders, tu sais.
Puis avez-vous des gens comme ça que vous devez relancer continuellement, puis qu'encore vous avez une liste, là, pas une blacklist, là, mais des gens que vous aimeriez absolument avoir à tout prix, puis que ça fonctionne pas depuis des mois et des mois?
Non, je dirais qu'on a quand même...
Vous réussissez à obtenir...
Oui, mais tu sais, on a quand même un devoir d'être juste. Tu sais, moi je me l'impose. Tu sais, dans le fond, tu dis, on a des gens de tous les côtés. Tu sais, on a encore fait aujourd'hui le gars de la CSN qui est en mission pour syndiquer les couche-tards. Mm-hmm. Tu sais, parce qu'on peut pas dire qu'on leur en a donné des faciles la CSN dernièrement, surtout à propos de ce dossier-là.
Ouais.
Fait qu'on a le gars de la CSN qui est venu débattre de ça aujourd'hui avec Mario, mais tu sais, on les a appelés, on a dit, écoutez, nous, on vous l'offre notre plateau, tu sais, on n'est pas des zones, tu sais, on a des zones publiques, mais on n'est pas une société d'État, tu sais, on aurait bien pu dire non, mais tu sais, je me fais quand même un devoir d'être juste, là. Puis anyway, Mario, il est catalogué, là. Les gens savent ce qu'ils pensent. Donc, on peut pas dire que c'est pas un échange intéressant entre deux points de vue clairs, là, tu sais.
Okay.
Un animateur, tu sais, qui pose des questions, puis on sait pas trop où il loge. Des fois, c'est tellement rien que, tu sais, tu l'écoutes plus, ou tu sais, il y a rien qui ressort de cette entrevue-là. Mario, qui est pas favorable aux lois du Québec qui favorisent la syndicalisation, contre la CSN, qui est pro-syndical, évidemment, ben, tu sais, les on peut pas dire que les deux personnages sont pas clairs et que ça risque pas d'être une bonne bataille. Là, t'sais. Mais ouais. Pour avoir des invités qui pensent comme Mario, qui sont comme nous, la plupart du temps, c'est assez simple, c'est assez facile, mais quand ils sont à Montréal.
Puis, y a-tu des changements qui s'en viennent par rapport à cette émission-là? Avez-vous premièrement eu les garanties que vous allez revenir l'année prochaine?
On attend ça. Écoute, je te dirais que ça va très bien dernièrement les codes d'écoute. On a devancé Radio-Canada à plusieurs reprises.
C'est bon ça.
À l'heure où on est diffusé, à 22h30. Ça, c'est sûr que c'est très positif du côté de nos boss. On est encore à vouloir rattraper TVA. C'est sûr que c'est une autre machine, c'est pas la même affaire. On est dans une station qui a 2 ans. C'est sûr qu'on est toujours à la recherche de plus de codes d'écoute, mais ça va bien. Je te dirais que c'est assez positif pour l'automne. On va être en onde tout l'été.
Ah oui?
Donc, on n'arrêtera pas. On ne fera pas relâche cet été. Donc, déjà là, c'est positif pour nos téléspectateurs qui, l'année passée, ont dû se priver de l'opinion de Mario pendant tout un été. Je te dirais que c'est, pendant tout un été, ils ne savaient pas quoi penser. C'est plate, ça.
Puis,
il a été obligé d'écouter Claude Charron.
Ouais. Oh. Puis par rapport à l'événement du Réseau Liberté Québec, est-ce qu'il y a un topo qui va être fait là-dessus?
Ben oui, c'est drôle que tu me dises ça parce qu'on a reçu Guy Bolduc qui va être un des panélistes puis qui est venu à l'émission. Puis, mais écoute, je me demande s'il y a une personne, je pense que c'est au rythme de 2 par semaine de gens qui viennent à l'émission qui vont soit être là dans la salle, soit qui vont prendre la parole. Et c'est sûr qu'on laissera pas passer cet événement-là, qui en plus se tient en même temps que le PQ. Ça risque d'être C'est sûr que la visibilité que Réseau Liberté Québec va avoir à Montréal va dépendre de plusieurs facteurs. C'est sûr que les porte-paroles qu'ils ont réussi à avoir sont de grande qualité, mais sont aussi il y en a plusieurs qui parlent uniquement anglais, puis d'autres, c'est des points de vue qui sont très avant-gardistes, là, tu sais. Puis on revient à ce que je disais au début, c'est des topos d'une minute et demie où ils vont falloir que, tu sais, mettons, là, Robert Plouffe, lui, il est au PQ, puis là, ben son pupitre, il dit, bon, là, aujourd'hui, là, Réseau Liberté Québec, ça brasse, il y a 500 étudiants, ou n'importe quoi, une manifestation, des logements sociaux en face, puis... il y a Éric Duhem qui veut se cromer, tout ça. Mais fais-moi un topo avec le PQ puis Réseau Liberté Québec dedans. Fait que là, Robert, il est 8h, il raccroche, il dit « Ouais! » Non, mais c'est ça qui risque d'arriver, là, tu sais. Qu'il fasse un topo général politique sur la fin de semaine puis sur les deux jours que Réseau Liberté Québec réussisse à s'insérer, là, tu sais. Ce qui serait déjà assez exceptionnel, là. Parce que le PQ, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas fait de congrès, là. C'est sûr que ça va être un événement majeur. Mais Réseau Liberté Québec a quand même eu le courage de se mettre en face.
Ben, je pose la question parce qu'ici à Québec, moi j'étais présent quand il y a eu l'événement, puis Danny était là d'ailleurs, puis il y avait quand même beaucoup de médias qui étaient présents. On se demandait si à Montréal, il va y avoir autant de présence médiatique ou si là, les gens ont peut-être passé à autre chose, puis ils vont vouloir traiter davantage de justement le congrès du PQ. Puis la droite va être encore laissée un peu de côté.
Mais c'est sûr que les organisateurs, Joanne et Éric, quand ils ont décidé, Joanne Marcotte et Duhem, quand ils ont décidé de faire ça en même temps...
Mais ils savaient, oui, c'est sûr.
Ils étaient inquiets au double, tu comprends?
Oui, c'est ça.
C'est les gars, ils se sont dit, bon, mais là, soit qu'on... Moi, mettons, à l'ADQ, là, je l'aurais pas fait. J'aurais pas mis mon congrès en même temps que le PQ, c'est sûr. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'argent politique... C'est difficile de n'avoir. Un congrès, ça coûte cher, ça coûte une fortune. Puis la visibilité qui sort du congrès, c'est d'une importance capitale, pas uniquement pour le moment où c'est diffusé, mais pour les mois à venir. Parce qu'après ça, tu surfes là-dessus, tu surfes sur ce qui a été proposé, tu essaies de présenter ça en chambre, puis s'il y a une campagne électorale qu'on voit venir, ben tu l'utilises ton congrès comme upswing. Prendre le risque de mettre ça en même temps que un congrès du PQ qui est, on sait, est un parti qui est préférablement, lui, des journalistes, mettons, pour ce qui est de la couverture. En plus, ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas fait de congrès. Puis, en plus, ça donne qu'il y a de la chicane souvent au PQ, puis c'est toujours facile à comprendre ça aussi. Fait que, tu sais, tu t'en vas face à ça, là, ben c'est qui tout double.
Ouais, définitivement.
On va voir. C'est sûr que la proximité des lieux aussi, ils ont été intelligents de mettre ça prêt, fait que ça se fait à distance de marche. T'sais, mettons qu'il y a un bout un peu plus tranquille au PQ, mais ils peuvent prendre leur camp et s'en aller voir du côté de Réseau Liberté Québec s'il y a quelque chose. Mais tu sais, il va falloir qu'ils fassent la nouvelle. Là, si la nouvelle, c'est des gens qui manifestent en face,
c'est
bon, là, c'est correct, ça risque de se rendre un topo. Mais pas 2 jours.
Puis Jean-Nicolas Gagné, lui, l'ex-adéquiste, est-ce qu'il va être présent à l'événement?
Je le sais pas.
Tu sais pas?
Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Éric, il m'en parle. Je suis sûr que... c'est pas parce que j'ai pas envie, mais c'est pas parce que je suis mal d'aller là parce que je travaille dans les médias maintenant ou parce que j'ai... Mais c'est juste que tu sais, je suis quand même dans un minding de been there, done that, là.
OK.
Tu sais, j'ai fait ça pendant 8 ans, des rassemblements politiques, là, prendre mes fins de semaine, puis aller faire des rassemblements, puis des colloques, puis des congrès, puis des conseils généraux. Tu sais, je m'ennuie pas de tout ça, là. Tu sais, là, je n'ai fait pour la peine. Réseau Liberté Québec, c'est tous des gens que je connais, c'est tous des gens avec qui j'ai travaillé, qui sont dans l'organisation, puis je leur souhaite bonne chance. Mais est-ce que je vais y aller? C'est pas exclu. Pas exclu, parce que j'aime ça être à des endroits où il y a souvent des idées qui sont précurseurs, puis où est-ce que c'est un happening, parce que c'est ça que ça va être à Montréal pour gens, là, tu sais. Il risque d'avoir une salle qui va y avoir autant de personnes que dans le PQ. Pas banal, tu sais.
Non.
Fait que c'est un happening. Moi, j'ai pas exclu l'idée d'y aller, mais c'est sûr que, tu sais, tu me dis, ça te tendrait-tu à un congrès de la DQ ou un conseil général? Tu sais, je les aime encore, puis c'est tous des gens qui se mettent qui sont à plat ventre, tu sais, pour changer des choses, puis ils sont guidés par des principes, puis c'est noble au bout. Mais aller une fin de semaine à Saint-Hyacinthe pour faire un congrès, pour l'instant, là, après, je suis encore trop près, là, tu sais, là, de mon départ de la politique. Là,
t'as encore un petit mot de cœur, là. Il est pas tout à fait passé.
Ben, il y a ça, puis il y a aussi le fait que je veux les laisser travailler, tu comprends, là?
Ah oh, oui, non, je comprends.
Si je m'en vais là, puis là, ben, tout le monde vient me voir, puis là, tu sais, je peux plus, là, tu sais, là.
Et lors de notre prochaine rencontre là, ou prochaine entrevue, c'est justement là-dessus qu'on veut te faire parler, sur tes déceptions. Peut-être que ça va t'aider là, d'en parler.
Ben oui, c'est, au départ, c'était pour ça qu'on s'est fait parler, mais je pense qu'on est allé, ouais. On est parti. Ouais. Je suis bavard. Hein,
ouais, c'est pas grave, écoute.
Faut
c'est
que bien. Tu m'arrêtes.
Hey, ben, merci beaucoup, Jean-Nicolas.
C'est moi qui vous remercie.
Puis on invite les gens, ben ils peuvent te suivre sur Twitter. T'as un compte oui. Twitter, donc juste à venir sur le compte de Connaître Suite là sur notre Twitter, puis ils vont te voir. T'es maintenant dans les abonnés de Connaître Suite et ben on voulait te laisser sur ton thème parce que on a raté le coche tantôt. Fait qu'on on te souhaite une belle soirée puis on te laisse sur le thème.
Merci les gars.
Plus tard. Salut, bye.
C'est le top 6 du monde entier avec Jean-Nic Gagné. Le top 6 du monde entier.
C'était le top 6 du monde entier. Chic type, très gentil.
Ah oui, ah
oui. Puis on invite les gens à écouter l'émission parce qu'il y a un peu de lui à travers ça.
Mm-hmm.
De Dumont à VTL. Tous les soirs de la semaine.
Donc, 22h30.
Et oui, il n'y a plus de qui a raison, c'est ce que j'en conclue. Mais pourtant...
je te regardais quand tu
parlais. J'étais là. Ouais, c'était comme... mais non, mais c'est sûr que j'écoute l'émission là, encore cette semaine, mais je ne l'écoute pas toujours jusqu'à la fin, j'avoue.
De toute façon, c'était pas la meilleure partie du show.
Non.
Donc, je pense que c'est une bonne décision. Là, pas juste l'effet lieu géographique, là, mais c'était...
c'était autre chose, peut-être.
C'était pas la meilleure partie. Donc, c'est un bon choix.
Nous, on va faire une petite pause.
Mm-hmm.
De l'autre côté, on se retrouve avec du bon matériel qui nous a été préparé par Danny, qui s'est levé très tôt ce matin.
Ouais.
Donc, c'est ça. On va faire une pause. Et de l'autre côté, on se retrouve. Vous êtes évidemment à Connaître la suite sur les ondes de XM172.
Bonjour, ici Joanne Marcotte du Réseau Liberté Québec. Samedi, le 16 avril, pendant que le Parti québécois tient son congrès national, le Réseau Liberté Québec, lui, y parlera d'avenir. Pour une première fois au cours d'une même fin de semaine, la nouvelle droite québécoise opposera la liberté et la responsabilité individuelle au vieux débat sur la question nationale. Venez rencontrer Daniel Smith, chef du Wild Rose Alliance de l'Alberta, Michel Kelly-Gagnon, Nathalie Elgrabli et Christian Dufault. Vous voulez moins d'État, moins de monopole? Vous trouvez que les syndicats prennent trop de place au Québec? Venez rencontrer des gens qui pensent exactement comme vous. Ça se passe à Montréal, au Hilton Bonaventure, le 16 avril. www.liberté-québec.ca.
too poor. She's wanting me less and I'm wanting her more. The bitter taste is cumbersome.
On est de retour à l'émission Connaître la suite sur les ondes du XM 172 et du RadioShock.fm. Petite mise au point nécessaire en raison du hockey du Canadien. En plus de nous condamner à avoir des gens qui sont plus ou moins intéressés à la politique à cause du sport, ben somme toute, on est nous aussi pris avec certaines conséquences et on doit, je vous dirais, travailler avec ça au cours des prochaines semaines. Malheureusement, je suis un partisan du Canadien, mais je souhaite quasiment qu'il se stoppe assez rapidement leur série, parce qu'il faut comprendre ici, sur la fréquence du XM 172, on diffuse les émissions du Canadien, donc les matchs sont diffusés en français, et à chaque fois qu'il y a un match du Canadien, donc ça fait en sorte qu'il peut pas avoir d'émission sur le 172. Donc, à l'approche des séries, on doit vous faire une petite mise en garde. Les séries qui devraient débuter la semaine prochaine, et c'est plus qui devraient, c'est qui vont débuter la semaine prochaine, mais on ne connaît pas encore officiellement le calendrier du Canadien. Donc, c'est le calendrier du Canadien qui nous intéresse. Donc, si vous aimez l'émission et vous êtes malheureux de constater la semaine prochaine, exemple, vendredi le 15, c'est-à-dire qu'on n'est pas en onde, ben dites-vous que c'est parce que ce soir-là, il y aura du hockey du Canadien. Donc, match du Canadien, pas de diffusion sur le 172 et évidemment pas de diffusion sur Internet. Donc, possiblement, donc un empêchement pour le 15. Chose qui est sûre, c'est que le 22 avril, on n'est pas en onde à cause du long congé de Pâques. Exact. Donc, les gens de XM Canada qui sont absents, je ne sais pas si le satellite va partir en orbite pour aller rejoindre l'étoile de Bethléem. Je sais pas, ça vient avec Pâques. Mais tout ça pour dire que le 22, ça c'est sûr qu'il n'y aura pas d'émission.
C'est sûr qu'il n'y aura pas d'émission.
Ouais. Et ben peut-être le 15 et peut-être le 29 si jamais les séries se prolongent. On espère que non, ce serait le worst case comme on dit en anglais, le pire scénario. Ce serait qu'on serait absent pour 2-3 semaines consécutives. On va vous tenir au courant évidemment via le compte Twitter, via le site internet de Connaître la suite au www.connaîtrelasuite.com et on a toujours aussi l'infolettre qui est envoyée à nos abonnés. Donc, si vous voulez être au courant, ben abonnez-vous à l'infolettre. C'est peut-être la meilleure façon aussi de vous assurer d'avoir ça dans votre boîte aux lettres les jeudis soirs.
Ouais. Donc, dans le fond, l'horaire pour les séries sort dimanche soir ou lundi matin. Donc, si le Canadien joue vendredi prochain, ben on n'est pas en onde.
C'est ça. Et là, ça va aller de série en série.
Exact.
Donc, c'est pour ça que si ça s'étire du côté du Canadien, ben on pourrait avoir des conséquences désastreuses au niveau de l'émission. Et ben après ça, ben ça sera réglé et on sera en onde pour un bon bout là, jusqu'à la fin de la saison. Donc, le 22, c'est sûr qu'il n'y a pas d'émission. La semaine prochaine, ben on s'en excuse à l'avance si jamais on ne peut pas, à cause du hockey du Canadien, être en onde. Tu as travaillé fort tout à l'heure que je disais, Danny. Ce matin, tu t'es levé tôt. Tu avais une entrevue à mener.
Ouais.
Donc, c'est le temps de...
La troisième côté du médaille de la médaille.
En résumé, je suis à la fois pour et contre. Parle-moi de ça, un show qui a des opinions tranchées. Hein?
Elle sort de chez vous puis vire à droite.
J'ai pas peur, moi!
Eh oui. Le troisième côté de la médaille.
Yes, puis j'ai hâte de l'entendre, celle-là.
Ouais.
T'es allé chercher ça loin, là, comme troisième côté, là.
Ouais, c'est ça. Donc,
Outre-mer.
D'outre-mer, exactement. Paris, France. OK. ben, à cause du décalage horaire, bien sûr, hein, vouloir interviewer quelqu'un de Paris à cette heure-ci, ben, ce serait quoi, à 3h et quelques du matin, probablement?
Et on peut pas demander ça quand même. Une personnalité assez connue là-bas
connu,
en France.
Exact, très connue là-bas. Et comment nous, on l'a connu, c'est simple. Un petit extrait qu'on a fait jouer sur les fonctions régaliennes. Donc, c'était elle qui parlait, c'était Agnès... attendez un petit peu, je retrouve son nom. Verdier-Molinier.
Oui.
Donc, cette personne-là fait un petit peu le rôle de ce que j'ai compris. C'est un peu l'IEDM de la France.
Oui, c'est ça.
Un petit peu ça.
Le IFRAP.
Le IFRAP, un organisme qui fait plein d'études et qui travaille beaucoup en collaboration avec le gouvernement français.
Oui.
Donc, ils sont très écoutés.
Oui.
Donc, ça, c'est au moins ça. Vous allez voir dans l'entrevue. Et ce qui est le fun avec cette personne-là, ben, c'est qu'elle a lancé un livre fin février. Qui a un titre assez choc, merci.
Oui,
qui,
assez choc.
Vraiment, mais c'était le but, hein. Si on veut faire parler de soi, des fois. Elle a sorti un livre qui s'appelle Les fonctionnaires contre l'État, le grand sabotage. Donc, c'est publié
rien
chez.
Rien de moins que le sabotage.
Le sabotage, le grand sabotage. Ouais,
ouais.
Donc, c'est publié chez Albin Michel. Le livre n'est pas disponible au Québec.
C'était ma première question.
Exact, mais j'ai vérifié pour vous et. Si vous voulez, vous pouvez l'acheter sur Amazon.fr.
OK.
.fr, donc la version France d'Amazon. Tout est là. Il y a des copies en masse. Il y a même des copies moins chères, je sais pas, seconde main, des choses comme ça. Donc, vous pouvez vous le commander sans aucun problème. Mais présentement, il n'est pas au Québec. Je ne sais pas si ça peut venir à un moment donné, là, s'il y a des collaborations. Et son but un peu dans le livre, c'est... Dans le fond, c'est une continuité de ce que fait l'IFRAP. Donc, je vais laisser dans l'entrevue, Agnès va l'expliquer, c'est quoi le rôle de l'IFRAP là-dedans. Mais c'est en continuité avec leur mission, c'est-à-dire de surveiller les dépenses publiques, vérifier si les programmes sociaux qui sont implantés sont efficaces et de publier plusieurs rapports. Eux, ils ont un site Internet, c'est le ifrap.org, donc ifrap.org. Vous pouvez aller là. Vous pouvez vous inscrire à une infolettre. Donc, ça, c'est pas pire si vous voulez suivre qu'est-ce qui se passe en France de ce côté-là.
Ben oui.
Et il y a différents sites aussi là-bas en France qui sont assez intéressants. Entre autres, contribuables associés. Vous pouvez faire aussi sur Google le cri du contribuable. Ensuite, il y avait un autre site qui suit le gaspillage gouvernemental. Donc, ça a l'air à bouger pas mal là-bas pour un État qui semble très à gauche, très socialiste.
Ben, contrairement à ce qu'on peut penser, et moi, au travail, je travaille avec des Français qui sont tout nouveaux ici au Québec, et ils semblent m'expliquer que là-bas, il s'opère un vent de changement. Et c'est
exact.
Sûr que Sarkozy, là-bas, amène un peu ça aussi, par sa nouvelle philosophie. Mm-hmm. On peut être en désaccord avec le personnage, mais je pense qu'il est en train de mettre là certaines directives et certains changements politiques là, qui s'orchestrent là-bas. Puis les gens, je pense qu'il y a encore là-bas aussi des similitudes avec le Québec. J'aime pas toujours citer la France comme ayant des similitudes, mais écoute...
Pas de ce côté-là.
Mais il y a un tronc commun, et comme tu le dis, il y a des sites là-bas, il y a des associations, des organismes, il y a des gens comme ici qui veulent avoir de l'information, qui la construisent et qui le font de belles façons avec rigueur. Et c'est le fun, parce qu'en plus, cette dame-là, donc si vous tapez son nom sur Internet, vous allez trouver un paquet de vidéos, de conférences qu'elle donne. C'est bien fait, là. C'est quelqu'un qui a un beau verbe en plus.
Exact. Moi, quand j'ai vu cette personne-là, parce que je ne l'avais pas vue, ça me fait penser un peu à Nathalie de Grébly. Un peu le look, l'intelligence et tout ça.
Oui.
Et je lui pose la question à savoir si ça...
T'as un petit penchant, je pense, pour ces femmes.
Ben, je trouve que c'est les femmes les plus parfaites.
Les plus sexy.
Ben oui, c'est sexy, l'intelligence.
Ben oui.
Même l'intelligence qui est supérieure à la mienne.
J'ai une question à te poser, Danny. Puis on recevait Joanne la semaine passée, mm-hmm. Qui est venue nous expliquer toute son histoire. Puis, ouais. Tu sais, justement, d'une femme qui, du jour au lendemain, se met à éplucher un peu ce qui se fait dans les médias qu'ils consomment. Puis... Est-ce que les femmes, je pose la question, est-ce que les femmes ont plus de rigueur, je veux pas dire journalistique, mais ont plus de rigueur justement, puis on sait aussi au Québec, on a Claire Joly aussi avec SOS Comté Buvable, tu viens de nommer une journaliste, donc Nathalie, puis on sait que le RLQ qui mène prochainement aussi son événement à Montréal, on a une Danielle Smith qui va être là. Tu sais, est-ce que les femmes sont en train d'être les prochains cerveaux comme ils sont dans le domaine de la médecine au niveau de la politique,
Peut-être, ben, de ce côté-là, de l'opinion comme ça, basé sur des faits, peut-être que ça passe mieux, peut-être qu'ils se font moins traiter rapidement de populistes ou de démagogues, ce qui leur permet peut-être plus facilement de se rendre
parce qu'on dirait qu'ils ont beaucoup de facilité, ces gens-là. C'est sûr qu'on parle à la crème de la crème quand on parle à Joanne, quand on parle à Claire Joly. Tu sais, ils synthétisent bien ce qu'ils veulent dire, c'est direct, c'est précis. Tandis que les hommes, des fois, je sais pas, ça me tanne un peu d'entendre les vieux politiciens, puis regarde, quand on regarde la campagne avec un Duceppe, tu sais, des gens qui vont dans les attaques personnelles, tu sais, qui jouent un peu enfantin. J'ai l'impression que les gars, des fois, là-dessus, tu sais, on revient plus au principe de base de la nature humaine, tandis que les femmes, on dirait qu'ils élèvent un petit peu le discours, là. Je suis pas en train de dire que Mme Marois... faites nécessairement dans ce que je viens de dire, mais là c'est peut-être les allégeances politiques que je partage pas, mais non, mais je sais pas. Puis toi, t'as parlé avec elle, sais-tu ce que t'as ressenti en frais de justement de pas sa féminité, mais le fait que ce soit une femme, parce qu'on le sait là que c'est, je sais pas, je te pose
ça
la question.
Ça peut avoir un impact, c'est sûr. Moi, d'après moi, il faut qu'ils soient vraiment très, très, très bonnes dans ce qu'ils font pour pouvoir percer.
Fait qu'on parle aux meilleurs des meilleurs.
C'est ça. Donc c'est elle qu'on entend malheureusement. Donc il y a peut-être un petit miroir. Comment on dit ça, dans plafond de verre pour certains dans ce cas-ci là. Donc ceux qu'on entend, ils se démarquent vraiment là. Pour qu'ils aient réussi à atteindre les médias, à être invités souvent, il faut vraiment qu'ils se démarquent. C'est peut-être pour ça aussi qu'on peut penser que c'est le cas. Dans son livre, vous allez voir là, il y a plusieurs choses dont elle parle. Et quand je dis que les discours se suivent et se ressemblent, là, vous allez voir pendant l'entrevue que il y a des spins utilisés par les syndicats là-bas qui sont exactement les mêmes qu'ici. Et des spins politiques aussi. Donc, moi, je parle du Québec, là. Donc, des spins politiques utilisés par nos politiciens québécois qui sont utilisés là-bas. Il suffirait de savoir lequel des deux a inventé le spin en premier. Mais ils utilisent vraiment le même langage. C'est vraiment incroyable. On parle, entre autres, dans le livre, justement, c'est de dire comment ont-ils pu en venir à être aussi forts, les fonctionnaires, pour en venir à empêcher toute réforme. Tout ça, et vous allez voir que dans le cas de la France, il y a des choses qui expliquent beaucoup mieux pourquoi que c'est comme ça en France qu'au Québec. Ici, on se demande pourquoi que la gauche est si forte au Québec. On ne sait pas vraiment la réponse.
On se l'explique pas tout à fait.
C'est ça, mais là-bas en France, il y a une partie de réponse qu'on peut avoir, contrairement ici. Et je vais sortir des statistiques, elle aussi, dans l'entrevue. Ça peut-être expliquer des choses. Donc, dans le fond, vous allez voir là, d'où viennent les politiciens en France. Donc, vous allez voir, selon d'où est-ce qu'il venait avant d'être en politique, peut influencer le fait que la France est aussi à gauche. Ça peut être ça. Aussi, qu'est-ce qu'on parle? On va parler, entre autres, des fameux salariés privés qui sont mieux rémunérés qu'au public, selon nos syndicats. On va voir si c'est vraiment vrai aussi en France là-dessus. On parle aussi, pas beaucoup dans l'entrevue, mais juste dire qu'il y a beaucoup d'incitatifs... à emmener des syndiqués à faire de la politique là-bas. Entre autres, qu'une personne n'a pas besoin de démissionner de son emploi dans un syndicat ou quelque chose comme ça, ou comme fonctionnaire pour devenir, pour se présenter à la politique.
Ah ouais.
Alors qu'ici, ben, certaines, peut-être, restrictions de dire, écoute, démissionne avant de te présenter. Il y a des endroits que c'est, tu peux te présenter, mais si tu gagnes, il faut que tu démissionnes. En France, c'est pas le cas, donc ça peut faire un certain changement. Aussi, qu'est-ce qu'on apprend? Dans l'entrevue, c'est que, pas dans l'entrevue, mais dans le livre, là, parce que j'ai pas pu toucher à tous les points qu'il y a dans le livre, on apprend qu'on peut avoir une retraite publique là-bas en France après seulement 15 ans de travail.
Oh ouais, aussi cool.
Donc c'est assez rapide. Et moi, je me souviens, j'ai vu à un moment donné, c'est pas une émission que j'écoute, c'était vraiment un hasard que je suis tombé dessus, mais à un moment donné, je suis tombé sur TV5 sur le quiz des chiffres et des lettres. Et à un moment donné, la participante avait l'air d'être à la mi-quarantaine. Et elle expliquait qu'elle était à la retraite déjà de la fonction publique parce qu'il y a un calcul qui se fait là-bas que si tu as eu des enfants, c'est comme si tu avais amené quelque chose de plus à la France. Donc, tu as droit à une retraite beaucoup plus jeune qu'une femme qui n'a pas travaillé au public.
Ouais,
tout ça. Donc, on n'en parle pas dans l'entrevue, mais j'ai vu ça à un quiz. J'étais là, j'en revenais pas. Donc, c'est vraiment poussé au maximum. On va parler de fonctions régaliennes dans l'extrait aussi, mais sans en parler en tant que tel. Et vous allez voir le nombre effarant de fonctionnaires qu'il y a là-bas, comparativement peut-être à ici ou ailleurs. Donc, c'est toutes sortes de choses comme ça qu'on va discuter dans l'entrevue. J'ai enregistré ça ce matin. Si le son n'est pas aussi excellent que présentement, ben c'est parce que ça a été enregistré de chez moi avec mon équipement, mais c'est quand même assez bien, là, vous allez voir.
Ben moi, en tout cas, je te remercie. On se quitte là-dessus cette semaine. Donc, les prochaines minutes vont être consacrées justement à l'entretien de Dany avec Agnès Verdier-Molinier, donc directrice du IFRAP. Là-dessus, toute l'équipe, on vous souhaite une bonne semaine en espérant vous retrouver le 15. Comme je vous ai dit, le 22, c'est sûr qu'on n'est pas là.
Sinon, donc, le 16, à notre table.
Oui, rendez-vous. Réseau Liberté Québec. On va être là. Bonne semaine, tout le monde.
Bye-bye. Alors, il nous fait plaisir de recevoir en direct de Paris Mme Agnès Verdier-Molinier, qui est l'auteur de « La mondialisation va-t-elle nous tuer? » sorti en 2008, et de « Les fonctionnaires contre l'État, le grand sabotage » publié chez Albin Michel, un livre tout frais sorti en février 2011. Elle est aussi membre de l'IFRAP, l'Institut français pour les recherches sur les administrations et les politiques publiques, depuis 2002. Alors, Mme Agnès Verdier-Molinier, bonjour.
Bonjour, monsieur, vous allez bien?
Oui, vous.
Il fait beau chez vous?
Oui, très beau. Bienvenue à l'émission. Alors, présentez-nous votre rôle et qu'est-ce que l'IFRAP exactement?
Alors, je suis directeur de la Fondation IFRAP, qui est une fondation d'utilité publique qui travaille sur l'évaluation des politiques publiques. En fait, c'est la fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Donc, c'est une fondation qui fait des recherches sur tous les domaines d'intervention de l'État en France. Donc, c'est aussi bien sur les questions de fiscalité que sur les questions de dépenses publiques, d'évaluation de la dépense publique, de l'école, de la santé, des crèches, des transports publics. Voilà, donc on est dans un prisme de sujet qui est très large, mais avec une vision qui est un peu originale, qui est de dire, d'un côté, il faut réduire les dépenses publiques, et de l'autre, redynamiser les entreprises et la création d'emplois marchands.
OK. Puis, dans un État comme la France, est-ce qu'un organisme comme ça est bien vu, ou vous avez droit à certaines critiques de la gauche?
Alors, nous avons bien sûr des critiques, hein, mais de la gauche ou de la droite, des deux côtés.
Ah oui.
Pour cela dit, nous sommes quand même de plus en plus écoutés et nous avons une vraie reconnaissance, même de la part de l'État, qui donc nous a reconnus il y a un peu plus d'un an, Fondation d'utilité publique, qui est un label de l'État en France, qui est donné par le Conseil d'État et en décret signé par le Premier ministre. Donc, nous sommes quand même taxés d'une certaine reconnaissance aujourd'hui et nous travaillons beaucoup avec les parlementaires et les cabinets ministériels. Nous passons une partie de notre travail quotidien à faire des propositions concrètes et à essayer de les faire passer au Parlement ou auprès des ministres.
Et, OK. Et quand l'État vous donne cette reconnaissance-là, est-ce que ça veut dire que c'est quoi? Il vous donne des subventions? Qu'est-ce que ça
non,
amène,
pas
cette
du
reconnaissance?
Tout. Ça nous permet, on n'a aucune subvention publique. On n'a même pas un euro d'argent public qui arrive de l'État à la Fondation IFRAP. Mais grâce à la reconnaissance d'être une fondation d'utilité publique, il y a d'abord de la part de nos interlocuteurs un peu plus de respect que si on était juste une petite association. Okay. Et ensuite, il y a la possibilité de déduire une partie des dons qui sont faits à notre fondation, du mécénat, de les déduire de ses impôts. Mais déjà, il faut aller chercher ces dons auprès des mécènes, ce qui n'est pas facile.
Exactement. Et vous, est-ce que c'est beaucoup de personnes qui travaillent à l'IFRAP?
On a une dizaine de personnes à temps plein, mais la moitié est bénévole, donc le fait de façon gratuite. et nous aide beaucoup à travailler sur nos sujets en tant qu'experts, puisque ce sont des personnes qui sont, avant, ils étaient avocats ou ingénieurs, etc., et ils travaillent beaucoup avec nous sur beaucoup de sujets, et grâce à eux, on peut bien travailler et produire une revue qui est une revue mensuelle, et donc tous les mois, nous sortons un dossier d'investigation et de recherche scientifique sur une politique publique. Le mois dernier, c'était sur les hôpitaux de Paris. Le mois d'avant, c'était sur le SMIC, donc sur le salaire minimum en France. Le mois d'avant, c'était sur l'open data, c'est-à-dire l'accès aux données publiques, la transparence des données publiques. Et le mois prochain, ce sera sur la question de la réforme fiscale en France autour de l'impôt sur la fortune et de la fiscalité du patrimoine.
OK, et ça, c'est une revue que par abonnement que les gens paient des frais, dans le fond, donc pour financer votre organisation?
Oui, on a 6000 abonnés à notre revue et on a à peu près 10 000 donateurs mécènes à notre fondation et on a à peu près 20 000 internautes réguliers sur Internet.
OK. Et moi, la semaine dernière, je me suis abonné à votre infolettre.
D'accord.
Donc, il y a ça aussi. Hein?
Là, on a 19 000 personnes qui reçoivent notre newsletter, notre infolettre par semaine.
OK. Êtes-vous la seule organisation comme ça en France qui a ce rôle-là? Parce que je regardais j'ai fait comme une revue de presse sur vous un peu. Là, je revoyais, attendez un petit peu, le CRI du contribuable, Observatoire des subventions, et puis qu'est-ce que j'ai vu aussi? Contribuable associé. Est-ce que vous êtes associés entre vous ou c'est vraiment tous des initiatives différentes?
Alors, ce sont des initiatives différentes, mais bien sûr, on se connaît. Les contribuables associés sont plus un groupe de pression de contribuables, alors que nous sommes vraiment plus un think tank, c'est-à-dire un réservoir d'idées, un laboratoire d'idées, et on fonctionne plus sur de la recherche. Hein.
Okay.
Nous apparentons un peu à Heritage Foundation, tandis que si on fait une comparaison avec les Américains et par exemple le contribuable est plus sur un groupe de contribuables type NTU ou des choses comme ça. Donc nous on est vraiment sur de la recherche de fonds et de la proposition concrète déjà quasiment rédigée au niveau législatif et on travaille les dossiers de façon très très poussée avec les politiques français. Donc oui, il y a d'autres think tanks, de plus en plus en France, de think tanks qui émergent, mais malheureusement très souvent financés beaucoup par l'État. Et okay. C'est ce que nous déplorons, c'est-à-dire que il nous semble qu'il ne faut pas que les groupes de réflexion qui travaillent sur les questions des politiques publiques soient à 80% financés par des subventions publiques. Mmh. Donc là-dessus, nous sommes quasiment uniques dans notre manière de fonctionner complètement sur de l'argent qui arrive que du mécénat ou des abonnements à notre revue.
OK. Et vous faites beaucoup de présence médiatique présentement parce que vous avez lancé votre livre en février. Comment est la réception à date? Est-ce que les médias en France sont plutôt de gauche ou
Les médias sont pas censés normalement être trop orientés, ouais. Mais en réalité, ils sont quand même beaucoup assez souvent encore dans une logique d'intervention de l'État et d'État-providence. Malgré tout, ça change quand même un peu parce qu'il y a une certaine recherche de la part de journalistes courageux de faire parler différents. Et notamment, j'ai été pour mon livre, donc qui s'appelle quand même Les fonctionnaires contre l'État et qui est paru chez Albin Michel donc fin février, j'ai été invitée sur quasiment toutes les radios publiques, France Inter, France Info, et hier soir j'étais chez France Culture. Et donc il y a un changement quand même par rapport à cette vision toujours du tout État, puisque précédemment, et on était quand même beaucoup moins invités sur ce même genre de sujet. Donc on peut dire qu'il y a une évolution, même si aujourd'hui, c'est quand même toujours difficile de faire passer des idées, comme par exemple l'idée que le statut de la fonction publique doit être réformé en profondeur. Mmh. C'est cette idée que je défends dans mon livre et qui est une idée difficile à faire comprendre en France parce que, en fait, c'est complètement encore tabou dans notre pays.
Et puis, d'après vous, l'évolution, justement, de ces médias-là vient d'où? Est-ce que c'est la crise, la dernière crise financière ou...
L'évolution, elle vient aussi du fait que il y a quand même une certaine prise de conscience que dans tous les pays qui nous entourent, les recettes qui sont choisies ne sont pas toujours de dépenser plus d'argent public, mais aussi de faire confiance au privé, au développement de l'emploi marchand, au choix des entrepreneurs, ce que nous avons beaucoup de mal à faire en France. Donc, je crois que nous sommes à un tournant de notre modèle, de notre système d'État-providence. Les spécialistes budgétaires voient bien qu'il y a un gros souci de finances publiques. Et tout le monde est en train de se poser la question sur comment on peut faire demain. Donc, bien sûr, même si ce que je défends, les idées que je défends et que nous défendons à la Fondation IFRAP ne sont pas toujours bien acceptées, quand je vais, par exemple, sur France Culture, une radio qui est financée par l'argent public, expliquer qu'il faut réfléchir, par exemple, à des écoles qui soient gérées par le privé, à des hôpitaux qui soient gérés par le privé, à des crèches gérées par le privé, les gens, au lieu de rejeter complètement ces idées, se posent quand même la question que est-ce que ça pourrait pas être mieux comme service public et moins cher.
Mmh. Et j'ai cru remarquer, corrigez-moi si je me trompe, lorsque vous êtes reçu en entrevue, souvent c'est on vous oppose quelqu'un pendant l'entrevue pour qu'il y ait une discussion, un débat. Est-ce que je me trompe ou
Ah, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un pour dire le contraire, c'est ça?
Mmh.
Oui, dans la plupart des débats, notamment les débats sur justement France Culture ou France Inter, on a toujours une personne en face qui est très virulente et qui a de toute façon l'idée de défendre que l'État doit tout gérer lui-même, qu'il faut conserver un statut pour les fonctionnaires, etc. Mais il faut savoir que dans la plupart du temps, même si c'est pas toujours vrai, ceux qui défendent cela sont financés en plus grande partie par de l'argent public, eux-mêmes travaillent pour l'État.
Ouais.
Donc ils ne sont pas complètement, même s'ils peuvent tout à fait défendre ses idées, bien sûr, mais ils sont pas forcément tout à fait objectifs.
Ouais. Parce qu'ici, ça se fait très peu au Québec, là, à moins que ce soit vraiment, s'il y a des débats classés de droite ici, souvent la personne va être confrontée à trois personnes de gauche. Ce sera pas un débat un contre un. Donc c'est très particulier ici, là. Je sais pas si c'est comme ça en France, là. Mais ici c'est très particulier, là. C'est une personne qui aurait des points de vue comme vous serait confrontée à trois personnes, pas à une seule.
Oui, ça arrive aussi, mais bon, c'est de moins en moins la réalité. C'est-à-dire que il faut se dire que déjà il y a tous ceux qui vous invitent pas de toute façon.
Exact.
Donc celui déjà qui vous invite, il est aussi courageux. Hein. Oui, donc je crois que ça bouge quand même et que aujourd'hui, grâce notamment aussi à Internet, il y a des idées différentes qui circulent et que plus ça va aller, plus les idées que je défends et que nous défendons à la Fondation IFRAP vont devenir des idées incontournables. Et ce que nous essayons de faire, c'est qu'elles deviennent des idées qui, au moins, dont on puisse discuter et qui soient au cœur des débats pour la présidentielle de 2012.
Mmh. Puis est-ce que vous recevez des courriels pas très, très... gentil de la part de ceux qui pensent pas comme vous?
Oui, bien sûr, mais ça reste quand même assez... finalement, je m'attendais, après la sortie du livre, à des réactions beaucoup plus négatives. Ce qui ressort beaucoup depuis la sortie de ce livre, même s'il s'appelle « Les fonctionnaires contre l'État », derrière, il y a beaucoup de fonctionnaires qui m'écrivent et qui me disent que eux aussi sont désespérés de la situation du système français et qu'ils aimeraient bien que ça bouge et que justement on réforme le statut et que il soit plus valorisé au mérite et qu'il soit pas toujours dans ce système très égalitariste et qui finalement ne satisfait vraiment personne. Donc vous savez, c'est surtout ceux qui sont très militants dans les syndicats qui ne comprennent pas ou ne sont pas du tout d'accord avec nos idées, mais les fonctionnaires qui sont très motivés et qui pour l'intérêt général voient bien qu'aujourd'hui on a un problème en France avec notre système public et que l'emploi à vie dans la fonction publique avec un nombre de fonctionnaires de 30% supérieur à l'Allemagne, ça peut pas continuer comme ça. Donc, à l'intérieur du système, il y a des gens qui nous soutiennent beaucoup.
OK, donc une preuve de plus que le débat évolue.
Oui, ça évolue. Et puis, je vais vous dire, même, je pense qu'au niveau des ministères, et aujourd'hui, bon, le gouvernement est un gouvernement de droite en France, comme vous savez, et il y a beaucoup de gens qui pensent pas tellement différemment de ce que j'écris dans le livre. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le dire, c'est tout.
Ouais. Effectivement. Donc, on va en parler de votre livre, justement. Donc, les fonctionnaires contre l'État. Le sous-titre, il est très provocateur, un peu, le grand sabotage.
Oui, bien sûr, c'est un peu provocateur, mais c'est l'idée derrière, c'est que finalement, nos agents publics sont tellement protégés en France et ont tellement de règles différentes de celles des salariés du privé, que petit à petit, ils se sont complètement détachés de la question de quel service public ils devaient rendre pour se concentrer uniquement sur la défense de leurs acquis sociaux et de leur finalement de tout ce qui les de tout ce qui fait qu'ils sont un peu plus privilégiés. Et petit à petit, ils se sont retournés complètement sur leur propre intérêt et plus du tout vers l'intérêt général. Et c'est ça, c'est aussi le sabotage derrière qui arrive, c'est le sabotage de l'économie française. Parce que plus vous créez des postes dans le public, plus vous créez, vous alourdissez les cotisations, les impôts, moins vous pouvez créer de la richesse dans le privé. Et c'est quelque chose qui ensuite, petit à petit, devient quasiment impossible à remettre en question. Et donc on est dans une situation où le lobby du public, c'est-à-dire le groupe de pression du secteur public, est devenu le plus important de France, et avec un pouvoir qu'on n'arrive pas à expliquer, et finalement tellement il est puissant, et il est beaucoup plus puissant que, par exemple, notre syndicat des entreprises françaises.
Oui, parce que je vous ai entendu dire, entre autres, que c'est un pouvoir qui empêche toute réforme. Là, c'est rendu tellement gros, tellement puissant, donc vous dites vous-même, là, c'est le lobby le plus gros en France, que toute réforme, même si elle est, que la réforme soit bonne ou moins bonne, est toujours empêchée par ce lobby-là.
Oui, parce que les réformes sont empêchées parce que parfois, elles remettent en cause leur pouvoir, le pouvoir du lobby public. Donc, par exemple, on a voulu réformer les retraites, on a juste réussi à allonger la durée de travail jusqu'à 62 ans, ce qui est pas du tout assez important, puisqu'en 2018, on va retomber dans un système qui fera des déficits au niveau de notre système de retraite. Et tout ça parce que, en partie, on n'a pas pu réformer le secteur public là-dessus. Les agents publics voulaient pas qu'on change la règle du départ à 60 ans. Et c'est spécialement eux qui ont beaucoup manifesté et fait des grèves au moment de la réforme. Et en plus, ils voulaient pas qu'on les fasse cotiser au même niveau que ceux du privé et qu'on calcule leur retraite de la même façon que ceux du privé. Il faut vous dire qu'en France, vous avez deux systèmes totalement différents qui cohabitent. Un système public, un système privé, avec des contrats de travail qui n'ont rien à voir, des cotisations qui n'ont rien à voir, des retraites qui n'ont rien à voir, et au final, deux mondes qui ne se comprennent pas, et un monde public qui pense surtout à empêcher empêcher que des réformes qui lui sont pas favorables se fassent, et qui petit à petit réussit justement à ce qu'on puisse pas contrôler les dépenses publiques, que le Parlement ne mette pas vraiment son nez dedans, que la performance économique des deniers publics ne soit, de la dépense de deniers publics ne soit jamais vraiment évaluée. Et petit à petit, ils empêchent toutes les réformes. Et donc, on arrive à une situation qui est assez négative, qui est qu'on fait en communication des réformes, mais derrière, ça ne crée aucune économie. Juste pour vous donner un exemple, pour illustrer cela, on ne remplace pas aujourd'hui un fonctionnaire sur deux qui part en retraite au niveau de l'État français. Et ça n'a généré quasiment aucune économie. Ça ne génère que 100 millions d'économies par an, selon la Cour des comptes, alors que ça devait en générer 5 fois plus, au moins 5 fois plus, puisque normalement ce serait 1 milliard d'économies qu'on devrait faire, et on reverse plus de la moitié des économies réalisées en primes et en salaires. Donc il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas faire des réformes qui permettent de rééquilibrer le budget et de mieux gérer les finances publiques. On arrive à faire que des réformes qui sont des réformes d'affichage et qui sont nuisibles aussi à nos idées, aux idées que nous portons, parce qu'elles n'ont jamais les résultats qu'elles devraient avoir.
Et ça, juste pour vous aviser, nos politiciens au Québec ont fait la même promesse sur remplacer un fonctionnaire sur deux à la retraite, et c'est pas appliqué ici non plus.
Ah bon?
La promesse n'est
pas
respectée.
Le problème, c'est que, si vous voulez, avec ce genre d'effet négatif, c'est que finalement, on dit, ah bah très bien, vous avez promis cette réforme, elle devait réaliser des économies, ça n'en fait pas, donc on n'a qu'à la laisser tomber, vous voyez?
Exact.
Donc le problème, c'est ça, c'est que quand on fait pas les réformes à fond, eh bien, on dit toujours, ah bah oui, mais votre réforme, elle n'a pas marché. Et elle n'était pas bonne, c'était pas une bonne idée, au lieu de faire la réforme qu'il faudrait jusqu'au bout. Donc là, ça, c'est un risque important pour... les idées que nous défendons, et l'administration et le lobby public l'a bien compris, parce qu'il sait que s'il laisse se faire des réformes, mais qu'il fait tout derrière pour les faire dérailler, eh bien ça va servir à des idées qui sont plus dans les idées de dépenser plus d'argent public, réembaucher du monde dans le secteur public, etc.
Oui, effectivement. C'est quoi le portrait là, du nombre de fonctionnaires en France et tout ça? On parle de combien de personnes sur une population de combien et tout ça? C'est quoi le portrait général de la fonction publique française?
Aujourd'hui, on a 5,3 millions de fonctionnaires en France, des fonctionnaires vraiment fonctionnaires de l'État, des collectivités ou des hôpitaux. Pour vous donner une petite idée, au niveau de l'État, on est à 2,2 millions. Au niveau de la fonction publique territoriale, on est à 1,8 million. Et pour la fonction publique hospitalière, on est à un peu plus de 1 million de personnes. Donc... tout ça, ça a augmenté. Depuis 1980, on a embauché 36% de nouveaux fonctionnaires. Non, donc c'est énorme.
Oui.
Puisque en 1980, on avait même pas 4 millions de fonctionnaires. Aujourd'hui, on est à 5,2 ou 3. Ça, c'est énorme par rapport à la population active en France, puisqu'on a plus de 20% de fonctionnaires, d'agents publics parmi la population active. Et en plus de ça, on a dans les entreprises publiques, notamment chez EDF, RATP, SNCF, on a des personnels qui ont des statuts à peu près identiques au statut public. Donc moi, dans mon livre, je parle d'eux aussi, parce que en tout, ça fait 7 millions de personnes. 7 millions de personnes, ça fait plus de 20% de la population active qui a un statut à vie, un droit de grève très important. Et donc un pouvoir de blocage des réformes qui est sans égal, je pense, dans d'autres pays.
Et on entend souvent qu'en France, l'énoncé suivant, c'est que oui, on a plusieurs fonctionnaires, mais ils sont très mal rémunérés par rapport aux pays voisins, alors que c'est pas vraiment le cas. Là.
Non, absolument pas. De toute façon, je vais vous dire, il faut aussi regarder les chiffres au niveau macroéconomique. Nous avons en France, sur le produit intérieur brut, sur l'ensemble de la richesse qui est produite chaque année, il y a 13% qui part en dépenses de personnel. C'est énorme. Alors que en Allemagne, on est à 9%. Donc, il faut se dire que on a déjà une bonne part de la richesse chaque année qui part à payer nos agents publics. Et sur ce montant-là, La Cour des comptes explique que ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Aujourd'hui, ça fait 285 milliards à dépenser tous les ans pour payer les personnels. C'est autant d'argent qu'on met pas dans des investissements d'avenir. Mmh. Et c'est autant d'argent que on pourrait ne pas emprunter aussi, quoi, parce que en France, on était encore à 90 milliards de déficit pour cette année. Donc c'est beaucoup d'argent. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à garder en tête cette idée qu'on a beaucoup de fonctionnaires très mal payés, alors que en moyenne, les fonctionnaires sont mieux payés dans toutes les fonctions publiques de France, ils sont mieux payés que le privé, que la moyenne du privé. Et quand j'ai fait des comparaisons avec les fonctionnaires britanniques ou allemands, les fonctionnaires français sont pas plus mal payés. En plus, avec justement la réforme de l'État qu'on n'arrive pas à faire, ils arrivent à obtenir beaucoup de primes et de salaires supplémentaires. Et en fait, ça renchérit, enfin ça rend encore plus cher les dépenses de personnel. Donc, on a beaucoup de mal à faire vraiment des économies. Et on garde toujours en tête que nos fonctionnaires sont mal payés, ce qui est devenu aujourd'hui totalement faux.
Et les fonctionnaires peuvent mettre beaucoup de pression sur les élus. Entre autres, j'ai lu que depuis 2007, auparavant, de 83 à 2007, il y avait un rapport qui était publié aux deux ans, je crois, pour noter les différences de rémunération entre le privé et le public, et que depuis 2007, sous pression des syndicats, ce rapport-là n'est plus publié en tant que tel. Il faut vraiment aller chercher les données soi-même si on veut pouvoir continuer à faire les comparaisons.
Mmh. Bah, ce qui est difficile, c'est que c'est vrai que chaque fois que les comparaisons deviennent plutôt mauvaises pour le secteur public, il y a toujours des modifications pour qu'on n'ait plus trop ces chiffres. Je vous donne un autre exemple, c'est que jusqu'en 2007, on avait les salariés qui étaient le revenu moyen, enfin le salaire moyen des salariés qui était calculé, en dehors, par exemple, des entrepreneurs salariés. Ils ne sont pas tout à fait pareils que les salariés normaux. Bon. Mmh. Et bien maintenant, il y a les entrepreneurs salariés qui sont calculés avec les salariés pour faire remonter la moyenne, parce que ça se voyait trop que le secteur public était au-dessus du secteur privé, quoi. Mmh. Donc c'est vrai que chaque fois qu'on peut montrer que il y a une différence qui n'est pas favorable au public, il y a une recherche de faire augmenter un chiffre ou un autre pour que ce soit pas aussi défavorable. Mais quand on leur dit ça, ils répondent que non, qu'il y a beaucoup de personnes du public qui sont très mal payées, que voilà, bon, et que les cadres du privé sont mieux payés que dans le public. En fait, ce dont je me rends compte et dont je me suis aperçue en refaisant les recherches pour ce livre, c'est que tous les gens du public voudraient tous se comparer à des dirigeants de très très grandes entreprises françaises, sauf que ils se trompent. Tout le monde n'est pas payé 1 million d'euros par an. Vous voyez, enfin, en fait, les gens du public pensent que dans le privé, ils seraient beaucoup mieux payés, alors que ce n'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait comme manipulation ici au Québec avec les syndicats, c'est que ils prennent, je crois, les 10% des entreprises les plus grosses au Québec pour faire les comparaisons avec les salaires publics. Donc ils tiennent. Ouais, ben voilà. Donc c'est des trucs pour éviter de.
Parce qu'en fait, ils considèrent que comme ils sont une grosse entité avec beaucoup de personnel, ils peuvent se comparer qu'à des grosses boîtes.
Exactement.
À des grosses entreprises et pas à des petites. Mmh. Mais quand on leur dit que la moyenne d'un salaire d'un patron de PME, c'est 3 ou 4 000 euros par mois, ils veulent pas l'écouter, quoi. Enfin, donc la difficulté, si vous voulez, c'est que c'est vrai que c'est difficile de comparer public et privé, parce qu'en plus, tout est fait pour que ce soit pas comparable.
Ouais.
Et nous, ce que nous disons, c'est que ben, pour éviter ce problème que ce soit pas comparable, redonnons les mêmes règles à tout le monde, au public et au privé, sauf pour ce qui sont des emplois autour de la défense, de la police, de la justice, hein, des choses qui sont vraiment régaliennes, de souveraineté nationale. Et puis le reste, il faut que ce soit les mêmes règles que pour le privé, les mêmes contrats, les mêmes contraintes, les mêmes taux de cotisation. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais nous, en France, les salariés du public ne payent pas le même taux de cotisation au chômage que les salariés du privé. Ils payent un tout petit rien du tout. Donc, en disant que eux, comme ils ont l'emploi à vie, ils ne risquent pas le chômage. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils cotisent au chômage.
Ouf, non, c'est pas comme ça ici. Donc, c'est une autre iniquité entre les différentes classes de travailleurs.
Non, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, malgré le caractère un peu étonnant de cette chose, il continue à soutenir qu'il faut surtout pas qu'il cotise au chômage, qu'il n'y a pas de raison. Mm-hmm. Mais malgré ça, je montre dans le livre qu'ils ont fait modifier la loi pour que si jamais quand même il y en avait un qui était licencié, il puisse bénéficier du chômage. Donc c'est très difficile quand même, hein, de montrer que à quel point le système est inéquitable, en fait.
Là, en plus, pendant que les pays autour de vous, ben certains pays autour de vous ont fait des coupures dans la fonction publique, dans les employés. Il y a un plan en France pour prendre, vous appelez ça la titularisation, c'est-à-dire des gens qui sont pas employés dans le fond, fonctionnaires réellement à vie, puis on leur donne un emploi permanent, c'est bien ça, de 40 à 50 000 personnes. Je pense.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, vous suivez bien ce qui se passe en France, c'est bien. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que au lieu de donner des contrats aux personnes du public, aux salariés du public, on va leur donner un statut à vie, alors que dans les autres pays, on est en train de donner des contrats à quasiment le plus possible d'employés du secteur public.
On fait le contraire.
On fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on titularise, c'est ce qu'on appelle titulariser, c'est-à-dire rendre titulaire d'un emploi à vie des contractuels. Là, il y en a 40 000 qui vont être titularisés, alors que il faudrait, au contraire, contractualiser, c'est-à-dire donner un contrat de droit privé à toutes ces personnes. La difficulté, c'est que on prend le problème à l'envers, on fait exactement l'inverse de ce qu'ont fait les Allemands, les Britanniques. Les Canadiens aussi, hein, puisque le Canada a pas mal réformé, mais aussi les Suédois, les Suisses, enfin voilà. Donc, on est à contre-courant de tous les autres, parce que on a doté ce lobby public de trop d'armes, et que en plus, il est soutenu par des syndicats qui se sont détournés complètement de la question de comment aider les salariés du privé, pour se concentrer uniquement sur la défense du statut et de toutes les originalités statutaires publiques. Donc, ils se fichent maintenant un petit peu des gens du privé pour se concentrer sur ceux du public, parce qu'ils sont nos syndicats français sont énormément financés par l'argent public.
Ok, de quelle façon?
Eh bien, il y a deux façons possibles. Il y a des subventions qui sont des subventions en argent, vraiment en euros, qui arrivent des ministères notamment. Et puis, de l'autre côté, il y a des mises à disposition de personnel, c'est-à-dire des prêts de personnel qui sont payés par nos administrations, mais qui travaillent 100% pour les syndicats, sans que les syndicats aient besoin de les payer.
Okay.
Et là, on ne sait pas exactement combien de personnes sont payées par... l'argent public, l'argent des impôts, pour travailler tous les jours pour les syndicats et pour ensuite organiser les manifestations, les grèves, les blocages, etc. Mmh. On évalue que c'est entre 20 et 40 000 personnes, mais on n'en a pas trop l'idée.
OK. J'ai lu qu'il y avait entre autres 127 000 logements de fonction qui sont fournis gratuitement à des fonctionnaires.
Oui, alors ça, bon, il y a historiquement des fonctionnaires qui ont droit à des logements de fonction parce qu'ils sont obligés de rester pas très loin de leur endroit de travail. Mm-hmm. Mais la difficulté, c'est que, encore une fois, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui travaille dans le privé, s'il a un logement de fonction, il doit déclarer un avantage en nature. Mmh. C'est-à-dire qu'il doit dire, voilà, il doit payer des impôts sur cet avantage.
Exact. Hein.
Mais les gens du public paient très peu d'impôts sur ces avantages-là. Vous voyez, comme quoi, c'est chaque fois qu'on s'attache à une question, il y a toujours des différences qui sont favorables au public. Il y a aussi dans le parc des logements à loyer modéré, c'est-à-dire les logements sociaux, il y a des logements qui sont réservés aux fonctionnaires, même s'ils gagnent trop d'argent pour pouvoir normalement en bénéficier sur les critères vraiment sociaux. Ce qui fait qu'en France, on a 800 000 appartements qui sont occupés par des gens qui ont dépassé les revenus mensuels. Et une partie de cela, mais on ne sait pas exactement combien, sont des personnes qui travaillent dans le secteur public.
OK. Puis, vos solutions, vous, là, dans le livre, parlez-vous un peu de qu'est-ce que vous suggérez pour améliorer cet état de fait-là? Parce que quand même, vous devez commencer à subir des pressions des autres pays de l'Union européenne? Parce que ça a un impact sur les finances publiques, là.
Bah oui, non, nous on suggère, au moins dans mon livre, je suggère trois choses, mais après on peut continuer. Il y a d'autres choses à faire derrière. Il n'y a pas que ce qui est écrit dans mon livre qu'il faut faire. Il y a d'autres choses, mais au moins pour les trois propositions principales que je fais dans mon livre, c'est donc que tous les personnels publics qui travaillent, par exemple, dans la santé, dans l'éducation, dans les collectivités locales. Donc dans les mairies, etc., ne soient plus embauchés à vie, mais sur des contrats normaux qu'on a pour les salariés du privé aussi.
Okay.
Donc ça permettrait déjà d'avoir des personnels beaucoup plus flexibles et en plus d'avoir des carrières qui se font pas de façon uniquement dans le public ou dans le privé, vous voyez, parce que la richesse, c'est aussi d'avoir un échange entre les deux secteurs et qu'il n'y ait pas deux secteurs qui se comprennent pas l'un et l'autre et qui ne se côtoient jamais. La deuxième chose, c'est que évidemment, il faut réduire les subventions aux syndicats, notamment tout l'argent public qui leur arrive et les mises à disposition de personnel. Et là, on est en train de travailler avec des parlementaires à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Et on réfléchit à faire en sorte que ces syndicats soient obligés d'avoir une grosse part de leur financement en cotisation des adhérents. Parce que on se rend pas compte, mais en France, on a presque plus d'adhérents de syndicats et plus que 7,5% de nos salariés qui sont syndiqués. Et dans le privé, il y a 2,5% de syndiqués. Et dans le public, il y en a 15 ou 16. Donc vous voyez, il faut vraiment redonner envie aux Français, aux salariés de se syndiquer, mais d'une autre manière, pas en bloquant tout, en bloquant toujours le pays et toutes les réformes. Mmh. La troisième chose, c'est qu'il faudrait faire quelque chose dont je vous ai pas encore du tout parlé depuis le début de cet entretien, mais empêcher que la politique et le secteur public soient aussi liés. Parce que dans notre pays, le statut public incite notamment les hauts fonctionnaires à rentrer en politique. Et tout ça en étant très protégé par le statut, puisqu'ils sont extrêmement... incités par une situation qui fait que ils vont faire de la politique, si jamais ils réussissent pas ou qu'ils sont pas élus, ils reviennent dans leur poste public.
Okay.
Vous voyez, donc ça n'existe pas ailleurs, en tout cas en Europe, il n'y a pas du tout, comme chez nous, cette incitation à ce que les gens qui travaillent dans le secteur public considèrent que les postes politiques leur sont quasiment réservés, hein, entre guillemets. Hein. Donc là, c'est très grave parce que ça veut dire qu'il n'y a que des gens qui, finalement, ont appris à être financés que par l'argent public, qui vont ensuite arriver aux affaires et qui vont décider pour les autres ce qui est bien de faire avec l'argent public. Et évidemment, ils vont dépenser plus d'argent public et imaginer toujours des solutions où l'État est celui qui intervient partout.
Exact. Allez-y.
Ça, c'est un très grave problème et il faudrait que quand les personnels publics s'engagent à faire de la politique, comme par exemple au Danemark ou au Royaume-Uni, ils soient obligés de démissionner.
Oui, parce que j'ai des statistiques là-dessus. 71% des directeurs de cabinet de ministres sortent de l'ENA, 61% des présidents de région et 48% des présidents de conseil général sont issus de la fonction publique. Donc, c'est tous des gens, dans le fond, qui ont vécu dans un système qui était bien pour eux. Donc, ça serait surprenant que, rendus en politique, ils veulent faire des réformes. Là, si le système dans lequel ils ont vécu pendant presque toute leur vie les avantageait, ça serait surprenant que, rendus dans les postes de fonction politique, qu'ils veulent faire des réformes.
Oui, non, mais c'est ça le problème. C'est que y a un moment où, si on a trop de personnel politique qui sont tous issus du secteur public, on pourra encore moins faire de réformes. Finalement, il n'y aura plus de réformes possibles. Parce que si le Parlement... aujourd'hui, au Parlement, il y a 50% de parlementaires, notamment les députés, qui sont issus du secteur public. C'est déjà beaucoup par rapport à la population dans son ensemble. C'est pas du tout... c'est déjà très surreprésenté. Dans les cabinets ministériels, vous le disiez, notamment à l'Élysée ou à Matignon, vous avez 70% des personnes, des cabinets qui sont au moins 70% qui sont issus du secteur public. À la tête des conseils régionaux ou généraux, vous avez beaucoup, notamment les présidents de région, sont 60% à être originaires du secteur public. Donc, on a déjà basculé vers un système où toutes les places politiques sont tenues, ou une grande majorité sont tenues par des personnes du public. Et pas par des entrepreneurs, et pas par des créateurs de richesses.
Exact. C'est pas des gens qui arrivent du privé, qui ont bâti des entreprises, qui ont dû gérer l'efficacité, l'efficience de leur processus et tout ça. Donc, il y a comme un manque dans les compétences des gens qui sont là.
Voilà, et il manque aussi d'inventivité et de vision différente. Malheureusement, ils ont beaucoup tous la même vision de ce qu'il faut faire. Et c'est ça qui fait que la gauche et la droite se ressemblent aussi autant.
Oui, effectivement. Avez-vous, en terminant, de l'espoir que ça change bientôt, ou s'il va falloir continuer à se battre longtemps?
Alors, bien sûr, il va falloir continuer à se battre. Mais d'un autre côté, oui, j'ai l'espoir. Parce que d'abord, on travaille pas dans un réservoir d'idées ou un laboratoire d'idées ou un think tank... sans être vraiment très très motivé et optimiste. Donc oui, c'est vrai que j'ai l'espoir que ça change, parce que je pense que les idées que nous défendons et que je défends notamment dans mon livre Les fonctionnaires contre l'État, sont des idées d'avenir qui vont dans le sens de l'histoire, et que la gestion que par le public, avec des personnels sous statut, avec un système ultra rigide, c'est pas le système du futur. Donc voilà, je pense que on a beaucoup de chance de réussir dans les années qui viennent à faire passer ces idées. Mais c'est vrai qu'on va à contre-courant de beaucoup d'idées reçues et de beaucoup de tabous qui subsistent encore dans notre pays. Donc le travail sera pas facile, mais on va le faire.
En tout cas, on vous souhaite bonne chance, parce que le Québec s'inspire souvent des politiques françaises. Continuez le combat, parce que si vous réussissez de gagner des batailles, ça va se refléter un jour au Québec, c'est sûr et certain.
Voilà, ce sera un effet boomerang. Et après, je viendrai vous voir pour voir si vraiment vous faites la même chose que chez nous quand on aura fait les bonnes réformes.
Ben, parfait. Ben, merci beaucoup, madame.
Merci.
Donc, peut-être à une prochaine. Bye bye. Donc, c'était madame Agnès Verdier-Molinier de l'IFAP.
too.